Bonsoir à tous. Je vais sans doute vous dire bonjour tout à l'heure. Je vais peut-être vous dire ah, quelle belle matinée, c'est l'habitude. Je ne stream pas souvent de l'actu le soir, mais on a pris une bonne résolution ensemble il y a quelques temps quand j'arrive pas à streamer le matin. Rendez-vous, développement, truc, machin. Je ne vous abandonne jamais pour de mauvaises raisons. Eh ben, j'essaie de streamer le soir. Voilà, je vais vous expliquer dans un instant pourquoi j'ai pas streamé ce matin et hier matin à mon corps défendant. Mais du coup, j'essaie de m'en rattraper un petit peu. Donc un petit stream d'actu ce soir parce que du coup, attention, ça va être un petit peu la fête, c'est rattrapage de deux jours, c'est-à-dire que ce soir, c'est deux jours de journaux, c'est deux des centaines de pages, deux jours d'articles de sélection parce que c'est pas parce que j'ai pas streamé que je n'ai pas lu les journaux, bien sûr j'en ai besoin de toute façon pour moi, j'ai besoin de savoir ce qui se passe et de comprendre, et puis j'en ai besoin pour préparer l'Hebdo Étienne, l'émission dans laquelle on revient sur l'actualité de la semaine. Donc ce sera comme toutes les semaines, vendredi soir 20h demain, avec 4 super invités, donc j'ai besoin de ça, donc le matos il est là, je l'ai, et on a deux jours d'actu. On va aller à l'essentiel, mais on va faire un bon stream quand même, hein. Donc une petite matière, c'est peut-être voilà, peut-être pas la nuit blanche dont parle Fly with Stars dans le chat, mais ça va être pas mal du tout. Comment ça va vous? Merci Yoshi Forever 2609 pour le 19e mois d'abonnement. Je suis heureux de te retrouver aussi. Merci Dreamerk pour le 3e mois d'abonnement. Merci pour le bon stream à tous. Elfin 44, merci pour le 3e mois d'abonnement. Mademoiselle Missy, merci pour le 17e mois d'abonnement. Les habitués sont là. Merci à Oni 413 également et Wasp à l'instant. Ah si, c'est trop mignon. Wasp qui écrit, après 25 mois d'abonnement, qui écrit, je ne sais pas si tu te souviens de notre rencontre à Bordeaux, j'étais le premier arrivé. Je ne sais pas si vous vous souvenez certains du stream qu'on avait fait au Muséum de Bordeaux avec Jarry. Avec Jarry, l'animateur de jeu. Avec Jamy. Oh la vache, le cerveau le soir quoi. C'est au moment où je dis Jarry, je me dis non, il y a un truc qui bug en fait, c'est pas Jarry que j'ai emmené. Ils ont des lunettes tous les deux d'ailleurs. C'est Jamy, Jamy Gourmaud. Oh la vache, j'espère que Jamy ne regarde pas ce stream. Donc, au Muséum d'histoire naturelle de Bordeaux, c'était un joli stream avec Jamy et avec Joe bien sûr. Et puis, comme on avait un petit peu de temps avec Joe avant de reprendre le train, eh bien, on avait lancé un petit appel sur les réseaux en mode foufou, genre on est là en terrasse de tel café. Pépin Camille, j'arrive pour te remercier, c'est adorable. On est là en terrasse de quel café? Viens qui veut. Voilà, les streamers, les viewers, les viewers, les gens qui passent. Voilà. Et donc, Wasp était le premier arrivé et depuis a soutenu sa thèse. Bravo. Lucien est dans le chat avec nous et était aussi à Bordeaux. Voilà, en fait, tout le monde était à Bordeaux. En vrai, on est monté à une bonne vingtaine quand même, hein. Au moins quoi. Voilà. Merci Pépin Camille à l'instant pour les 5 abonnements offert à la commune, je le prends comme un gentil message de soutien en ce stream de fin de journée. Allez, je vous lis un petit peu et on démarre. J'ai beaucoup, 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 beaucoup d'articles et beaucoup d'actu. Merci Konoha Malik pour le petit message sur le level 1 qu'on a enregistré avec Marcus, l'émission sur le jeu vidéo. Voilà. Et je passe de plus en plus de temps dans cet univers. Marcus qui viendra bien sûr dans Simplay, je l'inviterai. Sachant que vous le savez peut-être puisque je l'ai posté. Dimanche 20h, vous avez rendez-vous avec l'ami Jiraya, l'excellent Jiraya, qui veut absolument me faire découvrir l'univers de Mario Kart que je connais un petit peu. Ne lui dites pas, mais je vais quand même le pourrir à Mario Kart. Non, pas du tout. Voilà, ça c'est le rendez-vous de vendredi soir. Ça va être une émission bien détente. Vous connaissez l'ami Jiraya. Je suis très heureux de le recevoir. Allez, je vous lis un petit peu. Idriss, bonne soirée à toi. Marie Marmotte, fin de boulot, mais tu travailles tard. Bon courage. ouais, Top Gear, ouais. Oui, passage par Top Gear, effectivement. Très fier de ce tournage. Alors, ouais, effectivement, donc là, on aborde le pourquoi j'ai pas streamé hier matin. Parce que eh ben, j'ai pris la route très tôt, à 7h du matin, pour rejoindre un circuit dans la région de Dreux, circuit automobile, où m'attendaient les amis de Top Gear, les nouveaux amis de Top Gear, parce que vous savez que ce sont Sylvain et Pierre de Villebrequin hein, qui reprennent l'émission, voilà. Donc ils ont commencé les enregistrements, vous l'avez compris, hein, c'est pas un secret. Les équipes d'RMC, de Top Gear, de BBC France et de Prime, d'Amazon Prime, tous associés dans ces tournages nous ont donné l'autorisation de teaser un petit peu. Et donc les enregistrements de Pierre et Sylvain de Villebrequin pour Top Gear ont commencé, la diffusion c'est pas pour tout de suite quoi. Voilà. Bon, je peux vous lire qu'en gros, voilà, je suis dans la deuxième émission. Est-ce que, je vous donne pas le nom des autres invités, mais est-ce que j'ai fait bonne figure? Est-ce que j'ai été un pilote? Est-ce que j'ai été impressionnant? Vous verrez, vous verrez. Il faudra attendre un petit peu. Et Poulpe travaille sur l'émission, donc c'était une raison de plus pour y aller. Alors moi, je suis très curieux de Sylvain et de Pierre que je n'avais jamais rencontré, donc de Villebrequin, parce que ici même, hein, dans la commune, dans le chat, ça fait des mois quand même qu'on me parle de leur travail, de leurs aventures, du multiplat, tout ça. Et donc j'étais très curieux de les rencontrer, et ben j'ai pas été déçu. Ils sont formidables tous les deux, Pierre et Sylvain, de gentillesse, de simplicité. Il y en a un qui rote beaucoup, ça m'a beaucoup fait rire, voilà. D'humour potache, voilà. Donc je me suis régalé, c'était bien détendu le cerveau. Et j'espère que l'émission va être réussie comme ils le souhaitent, parce que c'est une grande aventure pour eux, hein. C'est pas la même prod, c'est pas la même façon de tourner, c'est de l'image, mais on ne tourne pas pour YouTube comme pour une chaîne de tout à fait de la même façon. Donc c'est un vrai défi pour eux et je leur souhaite le meilleur, ils le méritent, quoi. Voilà. Donc ça, c'était cool. C'était donc hier matin. Après, retour sur Paris 14h. Avec Joe, on a pris la voiture, direction la région de Lille, vers le siège de Boulanger, l'entreprise qui soutient, vous savez, Samplay pour toute une saison. Il y a une petite soirée gaming de Boulanger qui nous avait gentiment invités. Ça nous a permis de rencontrer les salariés de l'entreprise, de leur dire que j'étais super fier, super content d'avoir leur soutien pour cette émission. Et puis, il y avait aussi des acteurs de l'univers du gaming, de l'e-sport. Il y avait de jolies marques de matériel aussi, donc je me suis régalé. On est rentré genre à 1h du mat à Paris avec Joe. Donc vous savez pourquoi j'ai pas streamé hier matin à cause de Top Gear. Et ce matin, et donc couché vers 2h du mat, de me dire j'aurais pu tout à fait mettre le réveil à 5h pour lire les journaux et streamer ce matin. Non, parce que j'avais rendez-vous à 9h à France Télévisions. J'étais vraiment coincé, j'étais coincé pour parler d'un projet lié au... Je n'ai pas le droit de vous dire, j'ai pas le droit de vous dire. Voilà. Donc, mais en tout cas, super, super beau projet, super belle réunion à France Télévisions ce matin. Et voilà, et donc après la journée est passée, d'autres trucs. Et malgré tout, j'ai réussi à placer la lecture des journaux dans tout ça. Donc j'ai 2 jours de lecture, 2 jours d'articles qui sont là. Voilà. Ah, on va rattraper tout ça. Et puis on va essayer de streamer demain matin. Voilà, quand même, les journaux. Et on va streamer bien sûr demain soir. Ça, c'est obligé puisque c'est l'Hebdo Étienne. C'est parti, on va aller voir le visuel puisqu'il y a du nouveau. Ça a changé. Hein, j'ai eu quelqu'un qui a dû, à son corps défendant, ne pas être avec nous. Hein, c'est Charlie Danger qui était prévu. Voilà. Et finalement, elle a un petit souci. Rien de grave, rassurez-vous, pour les fans de Charlie. Elle reviendra plus tard dans l'Hebdo Étienne, en train de se caler une nouvelle date. Et du coup, Charlie Danger, dont ça va être la première, elle viendra un peu plus tard. Mais là, vraiment, c'était impossible pour elle. Avec toute la bonne volonté du monde, c'était impossible. Donc, Paul Larouturou, excellent journaliste de TF1, LCI, avec une nouvelle mission en cette rentrée, justement, d'incarner l'info de TF1 sur les nouvelles plateformes, sur les nouveaux réseaux sociaux. Donc là, Paul, il est vraiment à la croisée des chemins entre les médias traditionnels et les nouveaux médias. C'est hyper intéressant ce qu'il fait. Donc, j'avais très envie de le recevoir, Paul, qui a fait plein de choses dans sa vie, qui a notamment travaillé pour Quotidien, si je ne dis pas de bêtises. Kono Amalik confirme, Paul, il est excellent comme journaliste. Donc il y a Paul, il y a Julien Molcou, journaliste plutôt spécialisé culture, une consoeur que j'ai croisée souvent. Je crois que la première fois qu'on s'est vu, c'était à Fort Boyard. C'était un Fort Boyard. C'est un des 5 Fort Boyard que j'ai fait. Formidable personne, Julia. Donc très heureux de la recevoir. Et Géraldine Cornelavaux, que je connais puisque je l'ai beaucoup croisée à France Info, du temps d'un partenariat entre la matinale de France Info et l'Institut National de l'Audiovisuel, l'excellent INA. Et Géraldine Cornelavaux vient là pour la première fois et pas par hasard. Non, parce qu'à partir de demain, et ça je l'ai annoncé nulle part, suspense. À partir de, je l'ai dit rapidement il y a quelques jours ici, mais j'ai pas encore balancé le visuel, ce sera demain. À partir de demain, début d'un échange de bons procédés, d'un petit partenariat avec, entre l'Hebdo Étienne le vendredi et l'Institut National de l'Audiovisuel, une fois par mois pour commencer tranquille, un peu chill, pour pas se claquer un muscle, une fois par mois, une journaliste de l'INA viendra dans l'Hebdo Étienne avec des archives, avec des extraits, hein, puisés dans le fond infini des archives audiovisuelles de l'Institut National de l'Audiovisuel pour éclairer l'actualité, parce que parfois on a hyper besoin d'aller voir un petit peu dans le passé, il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, pour voir ce que pensaient nos ceux qui nous ont précédés de tel ou tel sujet. Donc c'est hyper intéressant. Là, en gros, on aura genre au moins 4 extraits hein, demain soir, préparés, cherchés, montés, clippés par l'INA pour nous, avec les droits bien sûr, hein, et présentés par Géraldine Cornelavaux, qui viendra, comme tout invité, parler de toute l'actualité de la semaine, et puis sur certains sujets qui diffusera un extrait. Voilà. Donc merci aux amis de l'INA qui sont venus me proposer cette idée. Moi, j'ai pas beaucoup d'idées en général. On me propose des idées, je dis waouh, formidable. Donc merci à eux, et on commence avec Géraldine demain. Voilà. Puis demain, je ferai un petit visuel pour sur les réseaux pour annoncer ça, parce que nous ne l'avons pas encore annoncé officiellement. Donc, je finis par Rémi Buzyn, puisque c'est lui qui nous a un petit peu sauvé l'émission. Quand Charlie m'a dit, très embêté, qu'elle ne pouvait pas, et c'est vrai qu'elle ne pouvait pas du tout venir au final, eh bien, j'ai cherché un peu dans mon petit carnet, notamment dans ceux qui étaient déjà venus et que j'avais apprécié, que vous aviez apprécié dans l'Hebdo, et j'ai demandé à Rémi, dont je sais pourtant qu'il est super occupé, excellent journaliste que j'aime beaucoup. J'ai envoyé un petit texto en disant, Rémi, à tout hasard, est-ce que demain, je lui ai envoyé un texto cet après-midi, hein, demain, est-ce que tu auras envie de faire une petite Hebdo Étienne, quoi? Alors après, sur l'actu, j'ai pas d'inquiétude, hein. Il suit ça de très très près, donc il a pas trop besoin de se mettre à niveau. Et 5 minutes plus tard, il me dit, ben, c'est toujours 20h, 23h par là, ouais.
Waouh!
Quel chef, quoi! Donc voilà, hyper heureux. Alors c'est une émission assez journalistique, hein. Rémi journaliste, Paul journaliste, Julia journaliste, Géraldine journaliste. J'aime bien mélanger les univers, les journalistes et les créateurs de contenu. Bon, il y avait justement Charlie Danger pour cette émission. Julia est plus chroniqueuse culture que journaliste, mais bon, c'est une journaliste. Donc c'est vrai que c'est full journaliste. Bon, ça change un petit peu. Je vous prépare des émissions, par exemple, full streamer. Voilà, j'en ai déjà fait une ou deux l'an dernier. C'est amusant aussi. Donc il y a des émissions qui arrivent, la full streamer. Il y a des émissions. Là, demain, c'est une émission full journaliste. Il y aura beaucoup d'émissions parce que j'y crois beaucoup de mélange. Voilà, mais en vrai, ça va être. D'abord, c'est des gentilles personnes. Voilà, des gens avec de l'empathie. De toute façon, j'essaie d'inviter que des gens comme ça. En général, je ne me trompe pas trop, j'essaye. Et puis avec des, ouais, un peu de connaissances quand même de l'actu et de notre milieu, donc ça va être intéressant. Mais on va être en mode chill, hein. On ne va pas s'énerver. Voilà pour demain soir. Mais revenons à ce soir. Je remercie Gandalf Lestari pour le 24e mois d'abonnement. Et j'en profite pour remercier les modos Clamakin, Julo18, MMJ7F, Nightbot, bien sûr. Alexia Vassikili, merci pour le 3e mois d'abonnement. Vous êtes formidable. Alors, je vous lis un petit peu, puis on va faire un petit sommaire pour vous montrer tout ce que j'ai ce soir. Samuel, tu es le meilleur journaliste du siècle, me dit Roman, c'est faux, mais c'est super gentil. Voilà. Merci, Mécureuil Roux, et pas Mécureuil Gris. Oh, entendu ? J'aime pas ça. C'est rien, ça. Ça, c'est un petit câble qui passe près d'une source électrique ou autre. Voilà. Ah, vous avez entendu ? Il suffit de trouver où c'est et ça disparaît. Vous êtes vraiment très gentil dans vos commentaires, hein. Ça fait plaisir. Un mal pour un bien parce que Rémi est trop chouette. J'avais beaucoup aimé ses interventions la dernière fois, me dit Nat. C'est vrai qu'il avait été excellent. Vous l'aviez beaucoup apprécié. Je pense qu'avec Charlie, on se serait régalé. Ce sera pour la prochaine fois. Oh ! Vous entendez ce petit grésillement ? Je suis un maniaque du bruit, moi. Je vais vous le chasser, ce petit grésillement. Scare You à propos de Lina. Cool, on aura les micro-trottoirs des Français alcoolos des années 80. Il y en a. Je remercie mon amoureuse, qui est aussi mon épouse, qui est aussi la plus belle femme du monde, qui vient de sub et de s'abonner à cette chaîne pour un 17e mois consécutif. Hélène, merci beaucoup. Voilà, peut-être que les enfants sont là. Malo et Solal, si vous nous écoutez, je vous embrasse fort tous les deux. Voilà. Et je passerai vous faire un gros bisou tout à l'heure après le stream. Je quitte le studio, je viens vous voir et je vous ferai de gros bisous. Et pour ceux qui dorment à côté du lit, il y en a un des deux qui dort souvent à côté du lit, eh bien je te remettrai dans ton lit pour que ce soit un peu confort. Merci Hélène. Ouais, bien sûr, Nico mon gars. On pense très fort à Mathieu Lartaud, notamment ce soir. Oh, c'est trop mignon, il y a Hélène qui vous dit bonsoir à tous. Oh, vous avez toute la famille Étienne qui est sur cette chaîne. Vous avez papy Sam qui est en train de préparer sa revue de presse et vous avez Hélène qui vous envoie plein de bisous. Trop chou. C'est pas prévu, Marie Marmotte, mais si vous le souhaitez, pourquoi pas. Est-ce que Marie Marmotte me demande si j'invite bientôt Charline Van Hoenecker dans l'hebdo. C'est pas prévu, on ne se connaît pas, je ne la connais pas, je ne l'ai jamais croisée, je crois. Je connais mieux Alex Vizorek, qui faisait partie de sa bande à France Inter, puisqu'on s'est beaucoup croisé à France Télévisions, et donc il est déjà venu deux fois, vous savez, dans l'hebdo Étienne, notamment la semaine dernière. Je connais pas Charline, mais si vous pensez que c'est une bonne idée, je peux l'inviter, ouais. Ça donne presque envie d'avoir une famille, dit Monsieur Biganon. Rien n'est obligé, hein. Voilà, bon, moi, chez moi, c'est mon choix. C'est vrai que c'est mon équilibre et mon bonheur, il est là, mais chacun doit le trouver. Il doit trouver son centre de gravité. On a tous un centre de gravité différent. Donc, je ne sais pas si ça donne envie d'avoir une famille. En tout cas, c'est vrai que j'ai beaucoup de chance. C'est trop mignon. Il y a Alexandra qui dit « J'espère que tu n'as pas eu mal au dos avec la voiture. J'ai pensé à toi toute la journée d'hier. » Alexandra, c'est très gentil. Je ne sais pas comment tu sais que je suis un peu sensible du dos, comme plein de gens, mais effectivement, la voiture n'est pas le truc que je préfère. Mais ça s'est bien passé. J'ai fait le fou sur un circuit. J'ai roulé pas loin de 6h, 6h30 par ailleurs pour aller voir les amis de boulanger. Et en fait, tout va bien. On va parler, bien sûr. On va parler du Haut-Karabakh. Amso Griffith qui parle des Arméniens du Haut-Karabakh. On va commencer cette revue de presse, justement, parce qu'il vient de se passer au Haut-Karabakh, ouais, entre les Arméniens et l'Azerbaïdjan. On va en parler, bien sûr. Ça va être notre premier thème, justement. Obligé de commencer par ça. Hein. Melen66, merci beaucoup pour cet abonnement. Merci à toi. Alors, sachez qu'Hélène ne viendra jamais en stream C'est Pierre-Yves qui dit ah, ce serait cool d'avoir Hélène en stream. Jamais. Elle est aussi parfaite que discrète. Voilà. Donc un jour, elle a montré sa main comme ça. C'est tout. Ouais, on va en parler, bien sûr. Alf Coincoin dit, je vous sens fatigué, comment allez-vous? Non, non, c'est juste, c'est ma tête normale en fait. En fait, il faut pas comparer le Samuel Etienne de Twitch avec le Samuel Etienne de la télé, qui est surmaquillé, qui est surexposé en termes de lumière, avec des belles caméras et tout. Ma vraie tête, c'est celle-ci, donc je ne suis pas fatigué. C'est ma tête de d'habitude, mais sans le maquillage et la lumière de télé. Voilà. Mais c'est très gentil, ne vous inquiétez. Bon, vous, ça va, vous, sinon? Ah, Nico Manga me dit qu'il a vu Hélène pendant les vacances, mais pendant 2 secondes. Ok. Très rapide alors. Bon, est-ce qu'on s'est tout dit, je crois, hein? On va se faire un petit sommaire, vous en pensez quoi? Le journal, le soir, quel concept? C'est vrai qu'on est un peu foufou ici. Alors, encore une fois, je préfère vous lire les journaux le matin, ils viennent de sortir. Mais plutôt que de ne pas streamer, quand je peux caler un petit stream le soir. Quand j'ai pas streamé le matin, eh ben je le fais au maximum. Donc c'est un peu petit rattrapage quoi. Merci petit humain pour le cinquième mois d'abonnement. Le cinquième mois. Ah non, c'était pas Hélène que vous avez entreperçu, je crois. Je crois que c'était quelqu'un d'autre de la famille. Ah, je vous ai même pas montré le. Je vois qu'il y a des gens qui sont covidés. Je vous envoie de la force parce que je l'ai eu il y a pas longtemps. On réagit tous différemment, mais certains le prennent bien cher. Ah, je vous montre quand même le visuel de dimanche, parce que je le trouve très beau, le visuel que Pépin nous a préparé pour la venue de Jiraya dans Samplay. Donc ce sera le quoi on a commencé la saison avec Étoile et Smash. Jill est venue jouer à Pokémon Émeraude. On a enchaîné avec Tonton de Witcher. Kenny la semaine dernière avec Rocket League. Oh, je me suis marré au Rocket League. Et donc c'est la cinquième émission de cette saison-là, après les deux émissions test de juin. Et donc Jiraya vient me faire découvrir l'univers ô combien fascinant de Mario Kart. Voilà. J'aime bien ce petit visuel. Je trouve que Pépin nous a fait quelque chose de waouh! Coloré, vivant. Enfin bon, Mario Kart, quoi. Ça va être sympa, hein? Est-ce qu'on peut envoyer de la force à petit lui qui se bat contre des souris? Ça fait 1 an et demi que je me bats contre des souris dans ma cuisine et le placo, j'arrive pas à m'en sortir. J'ai tout essayé. Tapette, piège, plaque, collante, j'en peux plus. J'y connais trop rien, mais la cohabitation, c'est possible ou pas avec les souris? Est-ce qu'on peut pas juste les laisser? Peut-être pas, hein. Est-ce qu'on peut pas les laisser? Prends un chat, me dit Renifleur de paix. Quelqu'un a des solutions pour notre ami qui a des problèmes de souris? Ah bah c'est chat, chat, chat. Tout le monde me dit chat. Chat. Le lance-flamme, me dit Ribon. Ouais, alors chat, alors plutôt, hein. Chat. Ça marche super bien, j'ai testé les chats, me dit Kalindi. Une flûte de Pan, jolie référence, Cowill, bien joué. Avec le joueur de flûte là. Une nasse avec du fromage. Elliot Britt, le matin, on est plutôt vers entre 8h et 9h, quoi, le lancement du stream, ça dépend. Ça dépend, ça dépasse. Alors j'appelais à la cohabitation avec les souris. Astromone me dit, tu ne diras pas ça quand tu te réveilleras avec une souris à 5 cm de ton visage, peut-être, oui. Je n'ai jamais trouvé de souris, moi. Alors, ou alors il faut. Alors certains disaient, quelqu'un disait lance-flamme d'autres chats. Il y a Aurélange qui combine en fait et qui propose le chat équipé d'un lance-flamme. Ouais, il y a quand même beaucoup de propositions de chats quoi. Si vous avez un chat à prêter à la personne qui a des problèmes de souris, le 1, petit Luin, à petit Luin donc il y avait des soucis de souris. Estime que le chat lance-flamme lui paraît être une solution plutôt sympa. Ok, tu as ta solution. Tu as ta solution. Bon, évidemment, il y a toujours des radicaux comme Roman qui dit bombe nucléaire. Bien sûr. Bah, tant qu'à faire. Comme ça. Il y a Monsieur Biganon qui est en mode juriste qui nous explique que comme ça, c'est le chat qui a la responsabilité pénale de la mort de la souris. Ok, donc il y a. Il y a Pierre-Yves qui a nous coupé l'appétit. Ma soeur habitait à Paris au-dessus d'une boulangerie. Le nombre de souris incroyable. Certains sont en train de dîner, hein, 20h48. Hein. Faut arrêter là maintenant. Hein. Marigolotte. Je vais aller voir. Je vais pas lire, hein, bien sûr, en direct. Est-ce que tu as. Marigolotte me dit qu'elle m'a envoyé un message sur. Parce que j'ai parfois ça va dans les messages cachés là. Donc ça va être plutôt par là, je pense. Donc, il faut que je la regarde tous. C'est le même, tu as le c'est le même pseudo, Marie Galotte, c'est le même pseudo que tu as sur Twitter ou pas? Parce que il y a les messages que je reçois et puis après il y a les messages cachés là, il faut aller voir. Je vais C'est pas le même nom? Ok, bon, je vais essayer de relire mes 600 messages en attente, alors, ok. Bon, les amis, est-ce qu'on a un go? Est-ce qu'on a un yes? Est-ce qu'on a un petit go pour le sommaire? Cette énergie totalement qui a aucun sens à 20h49. On y va? Petit sommaire? Comme ça, ceux qui n'ont pas toute la soirée à me consacrer, ce qui n'est pas bien, eh bien, vous aurez quand même l'essentiel de l'actualité. J'ai un go, alors on y va. Alors, on va commencer par ce qui vient de se passer au Haut-Karabakh. Alors, certains vont peut-être me dire, mais c'est quoi le Haut-Karabakh? Eh bien, on va en profiter pour le comprendre. L'Azerbaïdjan, donc c'est ça l'actu, a donc lancé mardi une série de frappes militaires sur une enclave séparatiste peuplée en majorité d'Arméniens, donc enclave séparatiste en Azerbaïdjan, peuplée en majorité d'Arméniens, des combats qui auraient fait au moins 29 morts. Le Haut-Karabakh sous le feu d'artillerie de Bakou, donc ça c'est un article dans Le Monde daté de jeudi, donc on verra les faits. On verra aussi que l'enclave arménienne a rendu les armes, hein, et accepté le cessez-le-feu aux conditions de Bakou, donc de l'Azerbaïdjan. Qui veut réintégrer ce territoire à l'État azéri, au Karabakh, les Arméniens, donc à la merci de l'Azerbaïdjan, avis de disparition. C'est l'édito du Figaro. Vous voyez que ce sujet est pris très au sérieux par les journaux, puisque c'est la une de nombreux quotidiens. Ici, la une de La Croix, la chute du Haut-Karabakh arménien. Quels sont les objectifs de l'Azerbaïdjan avec cette opération militaire? Vous posez peut-être la question, la réponse est dans La Croix. Dossier également dans Libération, voilà, qui a envoyé une journaliste, une envoyée spéciale dans la région qui s'appelle Blandine Lavignon, qui a recueilli la parole de ces Arméniens vivant dans cette enclave du Haut-Karabakh et qui estime que abandonner le Haut-Karabakh, c'est condamner l'Arménie. Il y a beaucoup d'Arméniens qui sont très inquiets de ce qui vient de se passer, pas seulement en raison du rattachement probable et imminent du Haut-Karabakh à l'Azerbaïdjan, mais peut-être des menaces qui pèsent également sur l'Arménie. Peut-être que l'Azerbaïdjan ne s'arrêtera pas là. Voilà. Donc vous voyez plusieurs articles, c'est le gros dossier de l'actu internationale de ce jour. On va prendre le temps, peut-être que certains, je fais appel à vous, connaissent bien le sujet, et peut-être que vous pourrez aussi nous éclairer là-dessus. Je vous lis un petit peu, peut-être qu'il y a peut-être un ou deux messages déjà. L'Azerbaïdjan, parce que quelqu'un m'en parlait tout à l'heure dans le chat. Bon, il y en a qui sont encore beaucoup sur le chat et les souris tout à l'heure. On lira ça tout à l'heure. En tout cas, c'est important de comprendre ce qui s'est passé. De Zachi Wow, à propos de cette actu, c'est admirable que les médias français relaient autant cette info, en tout cas la presse écrite hein, que je lis, mais c'est dommage que jusqu'ici on n'entendait jamais parler, alors que le Haut-Karabakh était sous blocus depuis 10 mois. Alors, non, pas tout à fait. C'est-à-dire que la presse écrite s'est quand même fait l'écho assez régulièrement de ce blocus imposé par l'Azerbaïdjan au Haut-Karabakh, avec incapacité de fournir des biens, des matériaux depuis l'Arménie. Donc il y a eu des articles. Ça ne faisait pas forcément la une des journaux, mais il y a eu quand même pas mal d'articles là-dessus. Pierre-Yves, bah justement, tu es au bon endroit. Pierre-Yves nous dit, j'ai jamais rien compris cette histoire entre l'Azerbaïdjan et le peuple arménien. Dans les articles qu'on va lire, on a des éléments d'explication qui sont assez clairs, quoi. Voilà. Alors, autre actu internationale, le déplacement en France, la visite en France du roi Charles III. On va revenir sur le dîner royal, les paillettes, le menu, les invités. Et moi, ce qui m'a intéressé dans les différents articles que j'ai lus, donc là, vous avez un article sur le dîner royal dans Le Parisien, vous avez un dossier dans Libération, pas d'aujourd'hui, d'hier, puisque là, je vous ai réuni le meilleur de la presse de 2 jours, puisque je n'ai pas streamé hier matin. Charlie in Paris, petit clin d'œil à Barbie, j'ai l'impression, là, avec toutes ces notes de rose. Et dans tous les articles que j'ai lus, ce qui m'a intéressé, c'est que les journaux sont allés au-delà de l'image de la paillette, du côté un peu presque gadget, en fait, de la visite d'un monarque qui n'a pas de pouvoir. Emily in Paris, t'as raison. Bien sûr, c'est pas Barbie, c'est plutôt Emily in Paris. Ah, il y a le rose aussi. Ok, t'as raison, c'est plutôt Emily in Paris. Ouais, bien vu. Je me suis gouré sur la ref. Et donc, certains pourraient s'arrêter. Je suis sûr que certains dans le chat sont en mode, mais attendez, mais quel intérêt à une république qui reçoit un monarque d'un État européen, qui n'est même plus dans l'Union européenne, parce qu'il y a eu le Brexit, un monarque qui n'a pas de pouvoir exécutif, donc qui ne sert à rien, quoi. À quoi bon, sinon, à dépenser l'argent du contribuable, puisque tout ça coûte un petit peu d'argent, et à créer des bouchons à Paris. Donc, on pourrait rester là-dessus, ou alors on peut aller un peu plus loin, et c'est ce qu'ont fait les journaux, pour essayer de comprendre comment ce genre de déplacement peut avoir une importance diplomatique qui n'est absolument pas ridicule pour les relations entre les deux pays. Et ça, j'ai trouvé ça pas mal, quoi. Arrêtez de m'engueuler pour la ref que j'ai ratée d'Emily in Paris. Je n'ai jamais regardé cette série et je ne la regarderai jamais. On est d'accord que j'ai rien loupé. Bon, je vois vaguement de quoi il s'agit. C'est quoi ? C'est une jeune américaine, c'est ça, qui est à Paris, c'est ça ? Et qui vit au quotidien une espèce de Paris fantasmé qui n'existe pas, c'est ça, on est bien d'accord que c'est pas celui qu'on connaît. Est-ce que quelqu'un a regardé ce truc, et est-ce que je me trompe en disant que ça n'a aucun intérêt? Enfin, pardon, je suis un peu brutal, mais je sais pas trop ma tasse de thé, quoi. Emily in Paris, quelqu'un a regardé, quelqu'un me le conseille? Voilà, tu loupes rien, c'est vraiment nul, et pourtant j'aime les trucs un peu nuls, me dit Nat, vous voyez. Nul, c'est pas si pourri, mais c'est largement oubliable, me dit Ptilu. Marrant, me dit Lemmings. Vu 3 épisodes, franchement, c'est une bouse, me dit Elisa. Bon, moi je vais rester là-dessus, hein. Voilà. C'est gentillet, c'est très cliché. Il y a un plan avec 2 tours Eiffel, ok, d'accord. Ok. Non, ne me donnez pas la fin. Ça ne vaut pas la série Tapis sur Netflix. Ok. On n'est pas le public, c'est pour les US, me dit Mister Who. Ah, peut-être. Okay. Bon, bref. Donc, on se penchera sur cette visite et sur les aspects diplomatiques de cette visite. Et pour le coup, j'ai appris des choses intéressantes. Et puis, comme c'est un sujet d'ailleurs qu'on abordera demain dans l'hebdo Étienne, à la demande de mes invités, on va se pencher aussi sur ce déplacement du pape François à Marseille. Alors c'est important parce que c'est pas un déplacement en France, c'est un déplacement surtout à Marseille. Et d'ailleurs il n'est pas invité par l'État français, mais par l'Église, si je ne dis pas de bêtises. Le débat, sinon la polémique, c'est que le président Macron a décidé d'assister à la messe qui va être donnée par le pape François à Marseille. Dans un État républicain, laïque, dans un pays où il y a quelques jours, il y a eu une polémique à la rentrée scolaire à propos de l'abaya, hein, est-ce que c'est une bonne idée que le chef de l'État assiste à une messe d'une religion, hein, ici, religion catholique? Eh bien, vous verrez, on a des avis partagés là-dessus. Le pape vaut bien une messe au Vélodrome, nous dit l'opinion. Le Monde a donné la parole à un historien, Jean-Noël Jeannet, qui n'est pas du tout d'accord, qui dit « rien, mais absolument rien ne justifie que le président assiste à la messe au stade Vélodrome, c'est une énorme connerie voilà. ». Et donc l'idée c'est de vous lire 2 visions de cet événement, l'opinion qui nous dit « bah si en fait c'est cool », qui nous explique pourquoi, et cet historien dans le monde qui nous dit « mais n'importe quoi, voilà, de quoi vous faire ». Une idée avec les différents arguments qu'on lira. C'est un petit peu l'intérêt de lire la presse écrite et différents regards sur une même actualité. Ça aussi, je voulais vous en parler parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Alors moi, je ne l'ai jamais vécu personnellement, je n'ai jamais été harcelé, ni harceleur d'ailleurs, quand j'étais enfant ou ado. Ça ne m'empêche pas de constater que c'est un fléau, que c'est quelque chose contre lequel il faut lutter. Je suis un peu lourd avec ça, je vous en parle régulièrement, du harcèlement scolaire. C'est un phénomène énorme. Voilà, donc on commence à prendre conscience médiatiquement et politiquement. Et donc récemment, il y a eu un suicide encore d'un jeune homme qui était harcelé. Et le gouvernement a tapé du poing sur la table en disant « bon, maintenant... fini la récré, on va donner des consignes ». Et bien effectivement, les consignes ont été entendues et vous avez un collégien harceleur, les faits semblent établis, d'ailleurs il a reconnu, qui a été interpellé, on parle d'un collégien interpellé en plein cours. Voilà. Donc, le débat ici, alors là, il est évoqué, l'actu est évoqué par le Parisien, et le débat, il est ici dans une page très intéressante dans La Croix qui donne la parole à deux personnes, évidemment, qui luttent contre le harcèlement à différents niveaux, et l'une des deux personnes invitées dit ok, le combat est noble, mais peut-être que dans la forme, là, aller littéralement quasiment passer les menottes à un gamin dans sa classe, c'est pas l'idée du siècle. Et vous avez une dame qui, justement, elle a perdu sa fille, hein, victime de harcèlement, qui bosse dans une asso qui lutte contre ce fléau, et qui dit, écoutez, à un moment, faut faire des exemples. À un moment, c'est ultra violent d'interpeller, d'arrêter sous les yeux de ses camarades un gamin, hein, c'est un collégien, mais à un moment, si ça doit passer par là, si ce genre d'action un peu choc peut faire réfléchir non seulement le principal intéressé, mais d'autres gamins harceleurs, eh bien faisons-le. Voilà. Vous me direz votre avis. Mais c'est un sujet essentiel. Je vois beaucoup de réactions là-dessus. On en parlera aussi dans l'hebdo Étienne demain soir. Je demanderai leur avis à mes invités. Alors moi, je m'applique aussi à trouver des bonnes nouvelles dans l'actualité, parce que de temps en temps, vous me dites, t'es gentil avec toutes tes catastrophes, tes drames, tes mauvaises nouvelles, tes crises, tes plans sociaux, tes que sais-je, ton inflation, etc. Tu peux pas nous trouver des bonnes nouvelles. Eh ben oui, j'essaie d'en trouver. Et j'en trouve, en fait. Voilà, comme quoi, il y en a. Notamment en matière de santé, là, j'ai deux beaux dossiers. La une de La Croix, de mercredi, donc d'hier. Cancer de l'enfant. Alors ça, c'est un truc dramatique. Les pas géants de la médecine et La Croix qui constatent depuis quelques années... eh bien, on a des progrès incroyables en matière de lutte contre les cancers infantiles. Voilà, donc hop, super bonne nouvelle. On lira ça. Et puis, de l'autre côté du spectre de l'âge, souvent ça touche plutôt les personnes âgées, en matière de lutte contre la maladie d'Alzheimer, qui est une catastrophe pour les personnes qui en souffrent et pour leur entourage. Donc, quel jour on est 21, ouais, ça. Aujourd'hui, c'était justement la journée mondiale de lutte contre Alzheimer. Vous avez un dossier dans La Croix encore, mais La Croix d'aujourd'hui, sur des espoirs qui sont en train de naître contre cette maladie avec des traitements, non pas contre les symptômes, mais contre la maladie elle-même. Voilà, donc bonne nouvelle. Hop, reviens petite tablette, elle est revenue. Je suis dans le sommaire, je continue. Vite fait, on ne va pas y passer une heure là-dessus. Rapidement, on va évoquer le fait que Elon Musk a évoqué l'idée de rendre X, feu Twitter, payant pour everybody, c'est-à-dire même quand tu ne veux pas le compte Twitter Blue, là, mais tu veux juste surfer sur Twitter à l'ancienne, sans même tweeter, juste regarder, tu regardes, tu payes. Tu regardes, tu payes, c'est l'idée, c'est de faire payer à tout utilisateur de Twitter, même s'il n'est pas actif, un petit quelque chose. Tu regardes, tu payes, c'est un peu l'idée. Est-ce qu'il va aller au bout? Pas sûr, on va voir. Ouais. Oui, elle est pas mal. Je valide la petite blague de Pierre-Yves qui dit « Comment ça? Le X est payant ?» C'est pas mal. Et il désespère de récupérer ses 44 milliards, me dit René Fleur de Paix. Ouais, je pense qu'il en est un petit peu là. Donc, il y a un article dans le Figaro Économie là-dessus. Et puis, le coup d'envoi vient d'être donné. Il y a 2 minutes tout pile. C'est en cours en ce moment même, mais restez avec moi. Ne partez pas. Le coup d'envoi de France-Namibie, voilà, c'est le troisième match de poule des Bleus du 15 de France dans ce mondial de rugby à domicile. Voilà, bon, sur le papier, il n'y a pas trop de suspense, d'autant que le sélectionneur a remis les meilleurs, les cadres sur le terrain après la victoire, mais pas convaincante contre le. C'était qui déjà contre qui? Contre l'Uruguay. Donc là, voilà, donc, normalement, ça devrait être une petite promenade de santé. On ira vérifier le score tout à l'heure, mais a priori pas trop de suspense. Les choses sérieuses vont commencer en quart de finale, hein, c'est là que ça va se passer. Et Ronan me dit, j'ai vu Mathieu Lartaud, parce que l'ami Mathieu Lartaud, hein, qui triomphe de bien des obstacles, et qui est un homme incroyable, vous savez, Mathieu qui a été amputé il n'y a pas longtemps suite à une récidive de son cancer au genou, dont il avait été frappé déjà à la fin de l'adolescence. Donc Mathieu qui est déjà... Voilà, avec sa jambe amputée, déjà de retour sur les terrains. Voilà, il est revenu à une vitesse surréaliste, disent les médecins. Et donc il est là ce soir, il est sur France 2, voilà, pour commenter ce match. Et Mathieu, j'espère qu'il va venir à la maison dans pas longtemps. Il est déjà venu dans l'hebdo Étienne, mais je pense que Mathieu, il faudrait lui consacrer une rencontre Étienne. Voilà. Pour qu'il nous raconte un peu son parcours, sa vie, comment il a lutté contre le cancer, comment il est revenu si vite. Et puis ses combats d'aujourd'hui, parce que du coup aujourd'hui, eh bien, c'est une personne en situation de handicap, Mathieu, puisqu'il lui manque une partie importante de sa jambe, et il découvre cette vie aussi, et il a essayé de se battre justement pour les droits des handicapés et les questions d'accessibilité, parce que là, en France, on n'a pas de grands motifs de fierté là-dessus, donc je pense que Mathieu, il aurait envie de parler de ça, et j'espère qu'il viendra à la maison dans pas très longtemps. Voilà, pour le petit sommaire, pas mal, vous en pensez quoi? Donc là, ceux qui n'ont pas 3 heures ou 2 heures, ben vous avez l'essentiel de l'actualité. Je sais que vous l'appréciez beaucoup ici, Pépin Camille, Mathieu Lartaud. Et vous savez quoi? Vous avez raison. C'est un mec juste incroyable, quoi. Quel bonhomme, quel bonhomme. Et à un moment dans l'article, il y a le journaliste a interrogé Mathieu et son épouse. Et tous deux expliquent à un moment qu'il a fallu annoncer la nouvelle aux enfants. Il a 2 enfants, ils ont 2 petits tous les deux. Je crois que le plus grand a 12 ans, peut-être 12 et 10 ans, on verra. Et qu'ils ont dû donc annoncer le fait que ben, papa allait se faire amputer de la jambe. Donc voilà, il raconte cette séquence-là. Et voilà, c'est un grand bonhomme de Mathieu. Mathieu, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un journaliste de France Télévisions, un passionné de sport, un passionné de rugby. C'est la voix du rugby sur France Télévisions, des grandes rencontres internationales. Et donc, il a été. Son rêve d'enfant, c'était de devenir joueur de rugby. Il a eu un cancer au genou qui l'a empêché de devenir joueur de rugby. Il est devenu journaliste pour commenter le rugby. Récidive du cancer il n'y a pas longtemps. Amputation de la jambe. Il est de retour sur les terrains. Voilà, c'est Mathieu. C'est une machine. C'est un goat. C'est un grand monsieur. Et c'est un mec formidable. Donc on lui rendra un petit hommage et on lui fera un grand coucou en attendant de le recevoir à la maison. Et oui, et accessoirement, et même GCTF a raison, le meilleur commentateur de rugby en France, c'est pas nous qui le disons, c'est tout le monde. C'est-à-dire que quand c'est pas lui, ça gueule, quoi. Sur les réseaux, quand c'est pas lui qui commente le match de rugby, les gens ils disent non, 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 non. Quand c'est sur une autre chaîne privée qu'on ne nommera pas, eh bien, les gens disent donnez-nous Mathieu! Ok, il y a ok, je vois, il y a essai, il y a essai. Bon, je sais qu'il y a, bon, je vois essai dans le chat. Pardon, hein, c'est pas très sympa pour la Namibie, mais à mon avis, c'est un essai français. Je me trompe? Sur le papier, il n'est quand même pas super photo. Français, hein? Essai français, bah ouais. Gros suspense, hein. Ça va être une. Non, sur le papier, pour le coup, entre la France, qui est une des meilleures équipes du monde, et la Namibie, il y a quand même un gouffre, quoi. Donc il y a zéro suspense ce soir. Ça ne veut pas dire que ça va pas être bien regardé, hein. Il y a Tropical Dartford qui réfléchit beaucoup à de nouvelles émissions pour la télévision notamment, qui nous fait une proposition ce soir. Et j'ai une idée pour toi et France 3. Tu pourrais faire une émission de cuisine et l'appeler Question pour un lardon. Pas mal. À la tête de l'émission. Ah, je me vois tellement en rendez-vous avec des grands décideurs de France Télévisions. Hey, j'ai une super idée, les gars. Vous voyez Question pour un champion? Ok. Vous voyez une émission de cuisine? Ok. Tu mets les deux dans un chapeau, tu secoues, quoi. Question pour un lardon. La tête des gars, quoi. Ok. Oh, c'est affreux ce que tu viens de dire, Bruce. Il y a Bruce Abaddon qui dit, c'est de toi qu'elle parle la chanson Étienne d'Affida Turner. Mais Étienne, c'est pas d'Affida Turner. Étienne, c'est Gesh Paty. C'est une chanson de Gesh Paty. C'est que Affida Turner a repris. Massacré. a repris. Donc, oh non, Bruce, ne me dis pas que tu pensais que c'était une chanson d'Affida Turner. Étienne. Étienne. Non, 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 pas toi. Après tout ce que tu as fait, non, non. C'est pas Gesh Paty. J'ai dit qui? Je me suis gouré sur la chanteuse? Je me suis trompé? J'ai dit qui chantait Étienne? J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? J'ai pas dit Gesh Paty? J'ai dit quoi? Peut-être que je me suis gouré. Ah, je dis Gesh Paty. Oui. Oh, vous m'avez fait peur. Vous m'avez fait peur. Ouais. Étienne, Étienne, Étienne. Ah, t'aimes bien? Non, pas Gaspacho, Gespati. C'est fou ça. Je l'ai rencontré un jour, je lui dis merci pour la chanson. Hein. Ça, le nombre de. Surtout quand je passe près des bars où il y a des gens bourrés, j'ai droit. Etienne, Etienne! Oh là là! En fait, c'est marrant, c'est un. Voilà, c'est. En fait, il y a dans les blagues que me font les gens bourrés, des blagues que personne ne fait jamais à jeun, il y a Étienne. Étienne, 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 bien. Voilà, la personne est bourrée, c'est souvent un mec d'ailleurs. C'est assez rare qu'une femme m'agresse comme ça avec Gajpati. Ou alors, c'est Julien Lepers. Bon, là, c'est 100% un mec et c'est 100% bourré. Voilà. C'est très bizarre. Donc, à chaque fois, je dis, toujours salut cordial. C'est incroyable. Il y a un verse distribution qui dit c'est un mème en fait. Non, non, c'est un mec bourré. C'est pas un mème, c'est un mec. Et deuxième essai, aucun suspense, je vous l'ai dit, hein, je vous l'ai dit. Voilà. Break, break, comment vas-tu? Ça fait longtemps que j'avais pas vu ton joli pseudo. Merci pour le 15e mois d'abonnement. Oui, Alexandra, je sais, oui. Pour la maladie, je sais. Ah, vidéo arbitrage, ok. Il y a Socoline qui me dit je m'appelle Colline. Je ne compte plus le nombre de fois on m'a chanté siffler là-haut sur la colline. Oh, affreux, affreux. Affreux. Ah oui, alors Serein mais révolté ne connaissait pas la version de la chanson Étienne d'Affida Turner, est allé voir sur internet. Et Serein mais révolté vous dit ne faites pas ça. Bah oui, faut pas, faut pas. Vous êtes fou, vous êtes malade. Et c'est validé. Okay. Bienvenue dans ce chat où on va suivre donc le match France-Namibie. Ok, vous avez l'essentiel de l'actu, vous avez le sommaire. Est-ce que. Oh la vache, oui. Morgane, c'est chaud, ouais. C'est un joli prénom pourtant. Ouais. Ouais. Il y a Monèse de nous qui s'appelle Morgane. Alors pour moi, Morgane, c'est la fée Morgane. C'est Merlin, c'est les Brocéliandes, tout ça. Mais pour des gens, manifestement, c'est la chanson Morgane de toi, je pense. Hein, Renaud, magnifique, belle chanson. Hein. Morgane de toi et l'actrice Morgane, comment ça s'appelle? Ah oui, bon, oui, voilà. Et l'actrice de film qu'on est censé regarder quand on est adulte. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Moi, je suis plutôt sur la fée. C'est mon côté un petit peu, voilà, fleur bleue. Vous savez comment je suis. Pourras-tu lire un article sur la conjoncture immobilière en France un de ces jours, Tom le grand tartineur? J'en ai lu tellement ces derniers jours, ces dernières semaines, des articles sur la conjoncture immobilière. On en a lu plein, t'as tout ça en replay. On en relira plein, mais il n'y en a pas ce soir. Okay. 12-0, ok, 12-0 pour la France. Énorme suspense, ça va finir en 70-2, ce match-là, ça va être n'importe quoi. Donc ça veut dire que certains sont avec moi et avec le match de rugby. J'adore cette idée. Ok, on y va? Est-ce que j'ai votre go pour après le sommet la petite revue de presse? Petite revue, hein? Yes. On y va? Eh ben j'ai un petit go. Let's go. Alors, on va commencer par essayer de comprendre ce qui se passe actuellement autour du Haut-Karabakh. Alors, ça s'écrit KH à la fin. Mais a priori, ça se prononce Haut-Karabakh. En tout cas, c'est comme ça que j'ai appris à le prononcer quand je travaillais à Radio France Internationale, où j'ai fait mes classes quand j'étais jeune journaliste. Je suis allé vérifier tout à l'heure. A priori, on dit toujours Haut-Karabakh, la menace d'une nouvelle guerre, titrait Le Monde dans son édition datée de jeudi. Donc l'histoire, c'est quoi? C'est l'Azerbaïdjan a lancé mardi une série de frappes sur l'enclave séparatiste peuplée en majorité d'Arméniens. Les combats auraient fait 29 morts. Il y a le spécialiste qui nous dit, mais j'aimerais surtout savoir pourquoi ça nous regarde personnellement. Si tu parles de ça, c'est juste parce que c'est des humains, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, si tu t'intéresses qu'à ce qui te touche personnellement, en fait, tu ne vas pas aller très 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 loin. Donc moi, je pense qu'il faut s'intéresser à tout ce qui se passe dans le monde parce que. Parce que c'est juste des humains, en fait, c'est des gens comme toi. Et c'est pas parce qu'ils habitent pas le même immeuble ou le même village ou la même rue que ce n'est pas important. Donc, en tout cas, c'est le présupposé ici. L'Azerbaïdjan a donc lancé mardi une série de frappes sur l'enclave séparatiste, mot important, en Azerbaïdjan, peuplée en majorité d'Arméniens. D'accord? Et le combat aurait fait au moins 29 morts. Voici les faits dans le monde. Le Haut-Karabakh, sous le feu d'artillerie de Bakou, donc c'est l'Azerbaïdjan, les bombardements menés par l'Azerbaïdjan sur l'enclave séparatiste, qui veut donc se séparer, qui voulait se séparer de l'Azerbaïdjan et rejoindre l'Arménie, sauf que personne ne les a jamais soutenus, ont provoqué la mort d'au moins 29 personnes. Lisons. L'Azerbaïdjan a donc lancé un avertissement brutal mardi aux Arméniens du Haut-Karabakh, ainsi qu'à leurs alliés russes, qui n'ont rien fait, qui sont supposés assurer leur sécurité. Durant toute la journée, des bombardements ont visé l'enclave séparatiste qui échappe depuis 32 ans au contrôle de l'Azerbaïdjan. Le ministère de la Défense azerbaïdjanais a copieusement diffusé des images de frappes présentées comme chirurgicales sur des stations radars, des dépôts de munitions, des systèmes antiaériens, des forces armées séparatistes du Haut-Karabakh. Bakou affirme avoir préalablement informé d'ailleurs le commandement du contingent de maintien de la paix de Fédération de Russie, parce qu'il y a des militaires, des soldats russes sur place qui étaient censés assurer la paix, vous avez vu avec quel succès, afin de prévenir un accident impliquant des soldats russes qui étaient déployés depuis l'accord de cessez-le-feu du 10 novembre 2020 qui a mis fin à la seconde guerre du Karabakh. Un peu moins de 2 000 militaires russes sont en effet supposés assurer la sécurité des Arméniens de ce territoire, c'était ce qui avait été décidé après l'accord de paix de 2010, bien qu'ils aient été notoirement incapables, ces soldats russes, d'empêcher les nombreux accrochages militaires survenus depuis bientôt 3 ans, ainsi que, quelqu'un en parlait dans le chat, du blocus, survenu depuis 9 mois, qui empêchait en fait le Haut-Karabakh de se ravitailler, notamment de biens en provenance de l'Arménie. L'armée azerbaïdjanaise présente cette campagne de bombardement du 19 septembre comme, ce sont leurs termes à eux, une opération antiterroriste répondant au harcèlement mené par des formations armées illégalement arméniennes sur son territoire. Le président de l'Azerbaïdjan, qui s'appelle Ilham Aliyev, a affirmé que l'offensive allait cesser si les séparatistes arméniens déposaient leurs armes. A priori, c'est ce qui s'est passé. Dès les premières frappes, les habitants, parce qu'il y a des civils bien sûr, les habitants sont réfugiés dans les abris. Je suis dans le sous-sol d'un bâtiment, dans le noir. Ils bombardent très fort, c'est effrayant, dit une jeune femme, Lilith, une juriste de 25 ans, qui raconte que les frappes ont commencé à l'heure où les enfants rentraient de l'école. Ils ont accouru dans les sous-sols, en larmes, raconte cette jeune femme. À ses yeux, l'attaque vise en fait à chasser les Arméniens du Haut-Karabakh. Et il n'y a pas grand monde qui lui donne tort à cette jeune femme. L'Azerbaïdjan a besoin de cette terre sans le peuple arménien. C'est un nettoyage ethnique, dit-elle. Le monde regarde et personne ne fait rien. Vous savez quoi ? Eh ben c'est ça. C'est exactement ça. Personne n'a levé le petit doigt pour ces Arméniens. Les combats ont fait au moins 27 morts, dont 2 civils, et plus de 200 blessés dans la région, selon les séparatistes. Quelle réaction du côté de l'Arménie ? Qui est censé soutenir ces Arméniens vivant dans cette enclave du Haut-Karabakh. La première réaction publique du Premier ministre arménien, Nikol Pachinian, a été d'écarter fermement toute intervention militaire de son pays. Il a réaffirmé l'absence de soldats de son pays dans le Haut-Karabakh, déclarations qui ont provoqué la colère de milliers d'Arméniens qui sont descendus dans la rue pour manifester en fin de journée devant le siège du gouvernement pour affirmer leur solidarité avec les Arméniens du Haut-Karabakh et réclamer la démission du Premier ministre qui a fait cette déclaration. Le Kremlin, et vous allez comprendre pourquoi on parle de la Russie, parce qu'en fait, normalement, le Kremlin est un soutien de l'Arménie, enfin la Russie. Le Kremlin s'est dit préoccupé et assuré, tenter de convaincre l'Arménie et l'Azerbaïdjan de retourner à la table des négociations. La Turquie, dont le soutien à l'Azerbaïdjan durant la dernière guerre du Haut-Karabakh a été décisif, a marqué un soutien appuyé à Bakou. La Russie soutient l'Arménie, les Arméniens, et la Turquie soutient l'Azerbaïdjan. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, qu'a-t-il dit ? Il a dénoncé un recours à la force inacceptable. Ces actions aggravent une situation humanitaire déjà difficile au Karabakh et sapent les perspectives de paix. Le président Macron, qu'a-t-il dit ? Il a condamné avec la plus grande fermeté cette offensive azerbaïdjanaise et réclamé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité. Je crois qu'elle va peut-être se tenir, peut-être qu'elle a déjà débuté. Elle pourrait avoir lieu dans les 2 prochains jours, disait l'article du Monde. Voilà pour les faits. On va aller plus loin, on va essayer de comprendre un petit peu ça, avec un article dans le Figaro, un article dans la Croix également, et même un article dans Libération. C'est ce que j'essaye de faire ici, de vous proposer plusieurs regards de plusieurs médias sur un même fait pour avoir le maximum d'informations et parfois des analyses un petit peu différentes. Essai, encore un essai de la France face à la Namibie. Allez, je vous lis un petit peu. Voilà, effectivement, les Arméniens ont déposé les armes, confirme MMGCTF, et discutent actuellement avec l'Azerbaïdjan pour un armistice. Alors pourquoi la Russie n'est pas intervenue? Peut-être notamment, c'est une des raisons effectivement, parce que les Russes sont mobilisés en Ukraine. Pour la France face à la Namibie. Comme ça, vous suivez le match en même temps. Alors, Le Monde se penche sur le sujet, La Croix se penche sur le sujet, Libération se penche sur le sujet. Merci beaucoup, 1DH3M, pour le gentil message. Et Le Figaro consacre sa une au sujet. Au Karabakh, les Arméniens à la merci de l'Azerbaïdjan. Dépassés militairement, l'enclave arménienne a donc rendu les armes, a accepté le cessez-le-feu aux conditions de Bakou. Qui veut réintégrer ce territoire à l'État azéri. Au lendemain d'une opération militaire, les séparatistes arméniens ont donc déposé les armes. Voilà où on en est aujourd'hui. Le combat était inégal, perdu d'avance, censé protéger l'Arménie. Je vous le disais, la Russie n'a eu ni la volonté, ni les moyens de s'opposer aux manœuvres de Bakou. On redoute désormais un exode massif des 120 000 Arméniens du Haut-Karabakh. Il y a 120 000 personnes. Hein. Il y a 120 000 Arméniens qui vivent dans la région. On redoute désormais un exode de ces 120 000 personnes. Un accord de cessez-le-feu prévoit la dissolution, le désarmement complet des forces séparatistes. Avis de disparition, c'est le titre de l'édito dans le Figaro de Philippe Gély. Pourquoi avis de disparition? Lisons. Il aura suffi à l'assaillant de 2 jours de combat cette fois pour venir à bout de la résistance arménienne épuisée par 9 mois de blocus, de fameux blocus du corridor de la Chine qui était la seule voie d'approvisionnement. En provenance d'Arménie, les 120 000 Arméniens de l'enclave, qui ont quelques raisons de redouter un nettoyage ethnique, vont devoir négocier avec leur vainqueur, Ilham Aliyev, le président de l'Azerbaïdjan, sans appui extérieur, à la merci des diktats de cet autocrate musulman enrichi au pétrole et parrainé par le Turc Erdogan, président turc. Ces exigences seront d'abord militaires, donc désarmement et dissolution des forces séparatistes, politiques, la réintégration de l'enclave à l'État azéri. Parions, écrit Le Figaro, quelles deviendront bientôt ces exigences bientôt culturelles et religieuses, effaçant progressivement une présence chrétienne millénaire dans ces montagnes du Caucase. La victoire de l'Azerbaïdjan résulte d'une somme d'abandon, de trahison envers l'Artsakh, qui est l'autre nom en fait de l'enclave arménienne. Excusez-moi, c'est mes copains Maldina qui m'écrivent. Okay. Donc, abandon et trahison, d'abord du juge de paix russe, censé s'interposer depuis 2020 mais qui n'a jamais bougé contre Bakou, abandon de l'Arménie du premier ministre Nicole Pachinian qui n'a pas reconnu l'indépendance de l'Artsakh et a exclu ces derniers jours de se porter à son secours au risque de l'instabilité politique à Erevan, abandon aussi des Occidentaux dont les déclarations de solidarité n'ont jamais été que des paroles en l'air. Voilà. L'ami russe n'est pas intervenu. L'Arménie voisine n'est pas intervenue. Les Occidentaux, malgré leurs formules, leurs phrases, leurs mots de soutien, ne sont pas intervenus. Vous avez 120 000 personnes qui sont littéralement laissées, abandonnées à leur sort actuellement. La Croix consacre sa une également à la chute du Haut-Karabakh arménien. Quels sont les objectifs de l'Azerbaïdjan avec cette opération militaire? En déclenchant cette opération militaire contre le Haut-Karabakh, l'Azerbaïdjan a pour objectif de rétablir son contrôle. On va revenir aux racines historiques de ce conflit. Rétablir son contrôle sur cette région qui lui échappe depuis la chute de l'Union soviétique en 1991. Il s'agit donc de liquider la République autoproclamée d'Artsakh, qui est l'autre nom du Haut-Karabakh. Cette entité politique de fait, hein, de facto, qu'aucun pays au monde n'a reconnu. Hein. Aucun pays au monde n'avait reconnu juridiquement cette enclave. Même pas l'Arménie, ce qui est fou. Sans doute craignant un conflit général avec l'Azerbaïdjan. Mais dont l'existence représente depuis plus de 30 ans un défi et un affront aux yeux des autorités azerbaïdjanaises. Cette enclave arménienne qui n'a jamais été reconnue par personne, eh bien, elle existe, elle existait, elle était en train de disparaître depuis 30 ans. Cet objectif avait été quasiment atteint à l'automne 2020 déjà lors de sa guerre victorieuse contre l'Arménie, au cours de laquelle l'Azerbaïdjan avait repris plusieurs régions échappant à son contrôle. Le déploiement sur place d'une force russe de maintien de la paix avait cependant empêché à l'époque les troupes de Bakou d'aller plus loin. Cette fois, l'armée russe n'est pas intervenue, peut-être justement parce que les forces russes sont prises sur le front ukrainien. Reportage envoyé spécial de Libération dans la région. Blandine Lavignon est allée sur place. Ah, c'est mon copain, mes copains pompiers. J'ai des copains pompiers que j'aime beaucoup. Ils sont gentils. C'est des gens très importants pour moi. Association Pompiers Raid Aventure qui font des choses formidables avec des enfants en situation de handicap. Merci Bardino. F. Bardino pour ce très joli raid. Là, on est rejoint par les milliards de personnes. Merci, vous étiez nombreux. Vous n'avez pas fait un petit peu de la cuisine, vous ? C'est pas de la cuisine, notamment ? Puis la cuisine, ça me dit quelque chose. Attends, il devait être top ce live, parce que le live dont vous venez, il s'appelle 3 ans de stream avec mamie. C'est pas, j'ai l'impression que ça me parle de cuisine, moi. Oh, c'est trop mignon. Oh ! Pardon, je fais une petite pause. C'est trop chou.
C'est inédit.
Oh.
C'est du jamais vu, les amis.
Oh. Oh, c'est trop chou. C'est trop charmant.
Ah non. La faute de frappe.
C'est le début du live qui vient de s'arrêter sur la chaîne.
Salut les amis. Bonsoir à vous. Mamie est là. J'espère que vous allez bien, les amis. On est avec Mamie qui est là. Pour la première fois en stream de toute sa vie. Et plutôt à l'aise. Elle m'a dit je suis pas trop stressé, je suis relativement à l'aise.
Trop mignon.
Comme à l'entraînement, elle m'a dit. Voilà. Elle voit pas bien le chat, donc c'est moi qui lui lirai. Donc si vous dites des bêtises. Salut Chafflera, ça va ou quoi ? Salut Doumé, salut Mayo, salut Dédé. J'espère que vous allez bien.
À mon avis, allez-vous, pour ceux qui l'ont pas vu, allez voir le replay. Ça va être trop charmant. Donc c'est la chaîne de F. Bardino. Voilà. Mais je crois qu'on s'est des. Je te suis, j'espère. Ouais, je te suis déjà. Ouais. Et je pense que j'avais dû te raid déjà une fois parce que ton contenu, je crois que je le connais. D'ailleurs, on va aller le voir tout de suite. Streamer cuisine. Ah, vous voyez, je me suis pas trompé. Musique, je fais à manger, je chante, je joue de la guitare pour une régalade maximale. Voilà. Et manifestement, je reçois mamie et ça, je trouve ça formidable. Bravo à toi. Voilà. Et peut-être que d'ailleurs, ta grand-mère est encore avec nous puisqu'elle était en live avec toi. Eh bien, je me permets de la saluer. Bon, on est sur l'actu internationale là. Merci encore pour le raid. Donc, c'est pas les trucs les plus gays du monde, mais dans ma vie de près, j'ai quelques bonnes nouvelles aussi. Donc, on revient à ce conflit. Vous avez l'envoyé spécial de Libération qui est allé dans la région et qui est allé à la rencontre des Arméniens et qui témoignent donc et qui disent que pour eux, ce cessez-le feu dont on vient de parler a le goût amer de la fin du monde. Garik, l'Arménien, s'alarme. Si tu leur donnes un doigt, les Azéris prendront le bras abandonné l'Artsakh, donc l'enclave arménienne en Azerbaïdjan. C'est condamner l'Arménie si on accepte les conditions du cessez-le-feu. D'autant plus que l'Azerbaïdjan a clairement énoncé les conditions. Hein, les 120 000 Arméniens du Haut-Karabakh devront accepter de devenir Azerbaïdjanais ou de partir. Nul doute que tous choisiront l'adieu à la terre, aussi douloureux soit-il. Oh, c'est trop mignon. Il y a notre ami qui vient de nous raid très gentiment, qui nous dit « On t'embrasse Samuel, mamie regarde question pour un champion tous les soirs. » Je vous embrasse tous les deux et je suis sûr que c'était un pur stream, quoi. C'était un pur stream. Je vous embrasse tous les deux. Contrairement à 2020, le Haut-Karabakh s'est cette fois-ci retrouvé totalement seul, je vous le disais, hein, face à cette nouvelle offensive. Erevan n'a pas déclaré de mobilisation. Donc Erevan, c'est l'Arménie voisine, hein, craignant de devoir, je vous le disais, affronter une guerre étendue à l'ensemble de son territoire. Après la débâcle de 2020, la position adoptée est celle de la politique du moindre mal. Laissez donc l'Azerbaïdjan prendre l'intégralité du Haut-Karabakh en espérant contenter son appétit territorial, en espérant donc qu'il s'arrêtera là. Un discours constate l'envoyé spécial de Libération dans la région qui laisse les habitants de la région plus que sceptiques. Donc est-ce qu'on va apprendre dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois que l'Azerbaïdjan décide d'une opération militaire, cette fois contre l'Arménie? Eh bien, à suivre. Je vais à la fin de l'article de Libération. On saura les prochains, disent les habitants de la région, donc à la frontière arménienne. Après le Haut-Karabakh, ce sera nous. En fait, je n'ai même plus d'émotion, dit cet habitant. Je me sens vide. Bientôt, il n'y aura plus d'Arménie. C'est fini. Voilà. Vous avez les éléments pour comprendre un petit peu ce qui vient de se passer là, autour de cette enclave du Haut-Karabakh. Donc, voilà. Si vous voulez comprendre un peu plus les racines de ce conflit, qui remonte en fait à la dissolution de l'URSS, hein, à la fin de l'Union soviétique, eh bien, vous trouverez ça assez rapidement dans un bouquin d'histoire ou sur Internet en trouvant les bonnes sources, quoi. Je vous lis un petit peu parce que certains connaissent le sujet et après on parle de la visite du roi Charles III en France. Je vous remets la une de la croix. Coltim, Coltlam écrit dans le chat, il y a deux peuples qui n'ont aucun soutien dans la région et qui souffrent de la politique des puissances locales, les Arméniens et les Kurdes qui ont été lâchement abandonnés aussi malgré leur combat démocratique. Merci Fifi, c'est gentil message. Merci parce que je suis content que tu découvres la chaîne, j'espère que ça va te plaire. Ici on lit les journaux ensemble, on en parle ensemble, on parle de l'actu ensemble, on parle de façon de chill, on n'est pas tous d'accord ensemble, mais on est ensemble pour en parler, même qu'on n'est pas d'accord, et ça c'est cool, c'est un peu l'idée. Bon. Quand Guizja dit « Nous les rois, on leur coupe la tête », en vrai, historiquement, c'est vrai. C'est pas une menace de violence, parce que je vois que le commentaire était. C'est pas une menace de violence. Enfin, historiquement, en France, les rois ont leur coupe la tête. Hein, c'est notre réaction à la monarchie, quoi. En soi, ce commentaire ne me semble pas problématique. Hein ? C'est un commentaire historique pour le coup. C'est plutôt drôle. C'est vrai. C'est juste historique en fait. Hein. Moi aussi, David me dit « Salut Sam, je suis impatient de découvrir une émission Samplay consacrée à GTA. » On va faire ça un jour. Ça va être énorme. Allez, je vous emmène en France, mais pour se pencher sur la visite du roi Charles III, le souverain britannique. Voilà. Alors, on peut s'arrêter à la surface, à l'écume des choses. Et on dit « Oh là là, un roi d'un... » en plus anglais, britannique, voilà, qui n'a aucun pouvoir effectif, c'est vrai, et qu'on accueille avec sous les lustres de la République, au château de Versailles, 3 jours avec un dispositif de sécurité de fou. Enfin, bref, ça coûte une fortune. Mais pourquoi donc, surtout dans une république qui a donc coupé la tête à son roi, effectivement, comme quelqu'un le rappelait tout à l'heure. Bon, on peut s'arrêter à ça en disant bah, ça n'a aucun sens. Et vos journaux sont allés un peu plus loin, voilà, pour dire que si, diplomatiquement, ça a un intérêt. Hein. Hobbyiste d'Alec dit c'est le jeu diplomatique. Alastair, aucun pouvoir effectif, le roi britannique, mais un pouvoir d'influence. Tout à fait, exactement. Suzanne nous dit bonsoir les gentils anges. Gentil gens, ce qui est très gentil, et s'abonne pour un 23e mois, merci beaucoup. Sinanchum, ou Sinancum, je ne sais pas, merci beaucoup, je n'avais pas vu, merci pour le 2e mois, et le très gentil message. Alors, disons d'abord les paillettes, dîner royal et paillettes à Versailles pour la première journée de sa visite de 3 jours en France, donc c'était hier. Le roi Charles III a donc participé aux côtés d'Emmanuel Macron à un fastueux dîner au château de Versailles. Je sais parce que j'étais pas très très loin quand il était en train de descendre les Champs-Élysées. Hier, direction l'Élysée, tous les deux. Et j'étais un peu dans les bouchons. Mais ce dîner est donc le point d'orgue de cette première journée. Hier, sur 3 jours au total, il va aller à Bordeaux aussi. De visite officielle du nouveau souverain britannique, marquée déjà par une cérémonie sous l'arc de triomphe. Je vous en parlais un instant. La descente des Champs-Élysées, un mini bain de foule. L'objectif est clair, porter un message d'amitié franco-britannique. Le menu du dîner hier soir, je vous l'avais déjà donné, homard bleu, volaille de Bresse, macarons à la rose préparés par des chefs étoilés, servis dans une porcelaine de Sèvres. Parmi les invités à Versailles, tout le gotha franco-britannique, le charismatique leader des Rolling Stones. Je ne savais pas que Mick Jagger était là. l'acteur Hugh Grant, l'animateur Stéphane Bern, les comédiennes, bon, dès qu'il y a des rois, les comédiennes Christine Scott Thomas, Charlotte Gainsbourg était là, le patron du groupe de luxe français LVMH, Bernard Arnault, était là, et j'apprends que Bernard Arnault va rencontrer le roi en tête à tête. C'est fait même parce que c'était aujourd'hui à l'ambassade britannique. C'est intéressant, hein. Donc vous avez quand même le patron d'une entreprise française, bon, pas n'importe laquelle, LVMH, qui a rencontré en tête à tête le roi Charles III à l'ambassade britannique. Bon, on voit à peu près le poids quand même du bonhomme. Ok, quelqu'un me dit, il faut vérifier cette info. Il y a Nat qui me dit que Mick Jagger était assis à côté de Gérard Larcher, donc président du Sénat. Théma l'image. Alors, attendez, on arrête tout. Si Mick Jagger était à côté de Gérard Larcher, le président du Sénat, je veux voir cette image. Parce que ce n'est pas... Bon, ils n'ont pas... Bon, comment dire, comment, ils n'ont pas... Ils n'ont pas le même... Comment dire, bon, on va voir. Attendez, on... est-ce qu'on a cette image de... Alors, je les ai pas assis côte à côte. Je les ai debout. En vrai, ça va, hein. Attendez, photo. Ouais, plein. Oh ben, trop chic. Alors, on va essayer de trouver cette photo. Oh là, attends, on va pas faire les 600 photos là. On est sur Voici là. Bon, bref, vous les voyez là, tous les deux. Oh, il est... en vrai, le Gérard Larcher, dans son petit. Dans son petit smock là. Hein? Dans son petit smock, pas James Bond, mais presque. Hein? Alors moi c'est ma petite Mr Flo, j'arrive, je viens de voir. Attendez, mais cette photo elle est insane. Oh, faut encore se refaire mini image. Attendez, il y a Gérard Larcher qui est en smock, mais il est en mode beau gosse. On peut pas la grossir. Ah oui, c'est pas. Les méchants. Il y a Zero qui dit c'est pas James Bond, c'est Jean Bon. Oh, c'est méchant. En vrai, il est chicos, hein. Il est chicos. Trouvez pas? Moi, je suis assez bluffé en vrai. J'ai l'image du dîner. Moi je le trouve en vrai chic. Hein, Mr Flo, merci beaucoup pour le raid, c'est adorable, merci pour de nous rejoindre. On est une petite revue de presse du soir. Merci, c'est adorable. Ouais, c'est un peu élégant, un peu. Oh, vous êtes méchant. Et Ribon TV, oui, c'est sûr, il est plus classe qu'un Anglais. Les Anglais, ils ont une petite classe un peu, j'aime bien moi. My name is Jean Bomber. Ok, là, vous êtes en pleine forme. Alastair, j'adore. Arrêtez le spécialiste, on dirait le tonton bêtise bourré au mariage. Je l'adore ce tonton, moi. On a les Georges Clooney qu'on mérite, dit Monseigneur Algo. Vous êtes très en forme. J'adore. Oh, c'est mignon, il y a Mr Flo qui dit direction le lit avec le téléphone et votre live à côté. C'est adorable. Voilà, je vous montre la chaîne qui vient de nous raid. Je suis j'adore. Voici la bio de Mr Flo, donc sa vie, son œuvre, sa proposition. Je suis un peu trop bizarre pour être décrit correctement. J'adore. Merci à toi, merci encore pour le raid. Bon, continuons, parce que l'important, c'est plutôt la dimension diplomatique de notre histoire, et on y retourne. Parce que les petits fours, c'est bien marrant, mais c'est pas ça qui est important. Alors, l'objectif, manifestement, c'est de resserrer un petit peu les liens, qui ont été un petit peu distendus ces dernières années, notamment en raison du Brexit, entre la France et la Grande-Bretagne. Il nous incombe à tous de revigorer notre amitié, pour qu'elle soit à la hauteur des défis de ce 21e siècle, a donc lancé à Emmanuel Macron, le roi, Charles III, qui parle couramment français d'ailleurs, appelant à un renouveau de l'entente cordiale ou Concorde franco-britannique, dont les 120 ans d'ailleurs seront célébrés en avril prochain. Un message qui est venu prolonger l'apaisement entrevu ces derniers mois dans les relations justement entre les deux pays franco-britanniques après plusieurs années houleuses, tendues, hein, je vous le disais, quand Boris Johnson et son style un petit peu particulier résidait à Downing Street, sur le Brexit, tension sur le Brexit, sur la pêche, tension sur la pêche, sur les migrants, tension sur la question des migrants. Dans le sillage d'un sommet en mars où le président français et le Premier ministre, le nouveau Premier ministre britannique, Rishi Sunak, avaient permis une reconnexion entre les deux capitales. Donc depuis l'arrivée de Rishi Sunak, les relations s'étaient un peu réchauffées. Il s'agit d'accélérer ce réchauffement. Quelques heures plus tôt, le roi et le président de la République ont donc descendu les champs. Les Champs-Élysées dans une atmosphère décontractée, nous dit le Parisien, à l'image de ces quelques tapes adressées par Emmanuel Macron dans le dos de Charles III. J'ai cru lire des papiers comme quoi les Anglais se seraient un peu offusqués. J'ai un message très intéressant dans le chat de quelqu'un qui s'est trompé de chaîne. Qui s'est trompé de chaîne, mais pas longtemps. Voilà. Hop. À bientôt. Que disais-je ? Oui, des médias britanniques qui se sont offusqués de la petite tape dans le dos du président Macron au roi Charles III. Ça ne se fait pas. Donc, j'ai appris qu'on ne touchait pas. On ne touchait pas un membre. Et là, il faut continuer la phrase, sinon cette phrase est bizarre. On ne touche pas un membre de la famille royale britannique, encore moins le roi, sauf si il vous a invité à le toucher. Le roi, pas le membre. Ok, voilà. Voilà. Donc j'ai lu ça. Bon. Vous savez, on dit que le président Macron est un peu tactile, il aime bien prendre par l'épaule, prendre comme ça et tout. Donc normalement, on touche pas le roi. Donc il a un peu tapoté dans le dos. Bon c'est pas très grave. Le roi qui entend, ça c'est important, asseoir son image internationale un an après son accession au trône, hein, après le décès de sa mère, va entamer ce jeudi, parce que c'est un titre de ce matin, la partie la plus politique de sa visite avec un discours à la tribune du Sénat. Hop, on retrouve Gérard Larcher, qui est une première pour un souverain britannique. Il mettra aussi en avant un sujet qui lui tient à cœur, l'environnement, parce que le roi Charles III a une vraie sensibilité écologiste depuis très longtemps. Lors d'une table ronde sur le réchauffement climatique, il clôturera avec le président Macron au Muséum d'Histoire Naturelle, et puis vendredi, donc c'est demain, direction Bordeaux, dans une région durement frappée par les incendies en 2022 et qui compte de nombreux Britanniques, parce qu'il y a beaucoup de Britanniques qui vivent dans le sud-ouest. Ça, c'est le programme. Ça, c'est l'objectif. Et puis, on va lire d'autres articles sur le même sujet. On va lire un article dans Libération sur justement l'aspect diplomatique et l'importance diplomatique de ce déplacement. Alors, je vous lis. Oui, je sais, Tata Germaine, l'histoire que tu évoques avec sa maîtresse de l'époque, mais qui est devenue son épouse, donc il y a prescription. Ah, on me dit que, Fifi, au Sénat, il y a eu une standing ovation après le discours de Charles III, ce qui était assez inattendu. Ah, on me dit que Mademoiselle Dumaine avait fait la bourde aussi. Que Mademoiselle Dumaine me dit que Chirac avait fait la bourde aussi. Alors, je crois que c'est vendredi dans l'Hebdo Étienne, Alex Vizorek, l'humoriste qui était avec nous, qui est à RTL maintenant, et qui nous racontait une anecdote, et je crois qu'elle est juste. Merci Tom, le grand tartineur, c'est adorable. Il nous racontait que lors d'un déplacement diplomatique comme ça, où il y avait Jacques Chirac et la reine Elisabeth II côte à côte dans un carrosse, hein, le cheval du carrosse avait lâché une énorme caisse devant Elisabeth II, et Chirac était donc 1m50 derrière, quoi. Et attendez, je suis nul pour raconter les blagues. Alors qu'est-ce qui s'est passé après? J'ai pu raconter. Certains connaissent la blague ou pas? Clamakine, raconte-moi l'histoire, j'ai plus la chute. Et donc Elisabeth II dit un truc et Chirac dit un truc énorme mais drôlissime. Vous me la racontez la blague? Clamakin, tu peux la raconter s'il te plaît? Là j'ai besoin de vous, j'ai jamais su raconter une blague. Elle est drôle pourtant, je suis nul. Alors, tout le monde dit que je connais l'histoire, mais racontez-la moi plutôt. Cyril 11, merci pour le prime. Racontez. Bon, je cut ce stream si vous me racontez pas l'histoire. Attention, dans 5 secondes, j'appuie sur arrêter le streaming. 5, 4, 3, 3 et demi. Ah oui, on a failli cut. Jacob Polowski, merci. Donc voilà, donc je redis l'histoire. Carrosse, Chirac, Elisabeth II, cheval qui lâche une caisse énorme. La reine dit « Désolé ». Chirac répond « Je croyais que c'était le cheval ». C'est magnifique, mais quel humour de champion quoi. Hein, le sorry de sorry, donc évidemment c'est excuse pour le cheval. Et Chirac, aurait répondu. je croyais que c'était le cheval. C'est génial, non? Et à mon avis, parce qu'elle avait beaucoup d'humour, je pense qu'elle a ri. Vous savez quand son époux à elle est mort, Elisabeth II, le prince Philippe, je dis pas de bêtises. En fait, on a beaucoup donc parlé de feu, son époux. Et en fait, ce qu'elle aimait notamment chez lui, bon, jeune, c'était un magnifique, magnifique homme. Hein. Elle était tombée amoureuse de lui, faisant fi un petit peu d'ailleurs de la vie de la famille royale qui n'était pas super partante pour ce mariage. Mais ce que disait Elisabeth II à propos de Philippe, c'est que il la faisait énormément rire, énormément rire. Voilà. Il se moquait beaucoup du protocole, il faisait un petit peu des vannes de coin comme ça. Voilà. Et donc, elle l'aimait notamment pour ça. Et je pense d'ailleurs qu'il faut toujours beaucoup... À mon humble avis, je pense que dans un couple, il faut rire, il faut beaucoup rire dans un couple. C'est un des ciments du couple. Il faut bien déconner, quoi. Alors, Charlie in Paris, donc évidemment, un clin d'œil à Emily in Paris. D'ailleurs, c'est évident, hein, c'est évident. Tout le monde le sait, y compris moi, depuis 5 minutes, puisque tout à l'heure, je n'avais pas la ref, parce que je n'ai jamais vu cette série. Donc ça, c'était la une de Libé mercredi sur Charlie in Paris. On me dit qu'il y a un 7e essai français. Il n'y a aucun suspense, les gars. C'est France-Namibie, les gars. J'ai rien contre les Namibiens, hein. Mais je veux dire, on le sait que... En plus, Galtier a mis sa meilleure équipe sur le terrain... Il y a zéro suspense. Hein. C'est pardon. Hein. C'est normal. C'est normal. Alors, l'intérêt diplomatique de cette visite. En France, écrit Libération à ce propos, l'enjeu de cette visite est crucial puisqu'il s'agit de renouer les liens entre Londres et Paris, très distendus ces dernières années. Le Brexit est passé par là. Et le courant entre les derniers premiers ministres britanniques, la très froide Theresa May, à l'inconséquent Boris Johnson et à l'éphémère Liz Truss, qui est restée quelques jours seulement au 10 Downing Street, n'est jamais vraiment passé avec le président français. Avec Rishi Sunak, le dernier Premier ministre britannique, plus proche en âge et par son profil, la tension est retombée d'un cran, même s'il reste du chemin à parcourir. Ce qui explique pourquoi la phrase est importante, ce qui explique pourquoi le roi a été sorti de ses palais, la famille royale a beau être apolitique, elle n'en reste pas moins un outil très efficace dans la diplomatie, dans le soft power britannique. Elle est en fait sa carte maîtresse, son meilleur atout. C'était vrai sous la reine Elisabeth II, ça l'est encore sous le roi Charles III. Or, pour le gouvernement britannique qui recommande les déplacements des monarques, il y a urgence. Vous apprenez au détour de cette phrase quand même que c'est le gouvernement britannique qui recommande les déplacements de la famille royale britannique en mode outil diplomatique. C'est vachement intéressant, hein. Or, pour le gouvernement britannique qui recommande les déplacements des monarques, il y a urgence, même s'ils sont encore peu à l'admettre de manière frontale, le Brexit se révèle une catastrophe. Notamment économique, le pays souffre, de nombreuses grèves sont en cours, la crise du coût de la vie est aiguë, inflation record. La guerre en Ukraine est aussi passée par là, démontrer une fois de plus que seul, on n'est vraiment pas plus fort. Les visites d'État sont une manière d'envoyer des signaux politiques, notamment en temps de crise, explique un professeur d'histoire qui s'appelle Alaric Searle. Cette visite est une manière pour le ministère des Affaires étrangères d'apaiser les tensions avec la France sur la crise des réfugiés. C'est aussi en partie une confession de la part des principaux partis politiques britanniques que le Brexit a été une erreur terrible quand politiquement il n'est pas possible de dire aujourd'hui qu'on voudrait rejoindre l'Union européenne. Vous voyez, derrière cette visite en fait du roi Charles III, il y a beaucoup de messages diplomatiques que Londres entend faire passer auprès de la France et je dirais même auprès des Européens. Voilà. C'est intéressant, hein ? Bien, moi, cet article. Ce serait très, très intéressant. Merci, Libé. Décadragme, salut à toi et merci d'être là. Je n'ai pas streamé ce matin, j'essaie de me rattraper. Non, mais les gens qui disent la Namibie se fait découper 54-0, je ne suis pas un spécialiste de rugby. Mais c'est normal, les gars, c'est normal. La France est actuellement une des meilleures équipes au monde. La France espère bien devenir championne du monde. Je ne sais pas si elle va y arriver. Et il y a un océan entre les deux pays au niveau de... Il n'y a aucun suspense. Y a aucun... C'est un... Voilà. Donc la question, c'était victoire 30-0, 40-0, 50-0, 70-0, 80-0. Mais il n'y a aucun suspense. Donc vous n'allez pas vous étonner toute la soirée, quoi, parce que ça va finir à 80-0 cette histoire, ou 82, c'est normal en fait. C'est un peu triste pour eux, ouais, mais en fait, Scocpo dit c'est un peu triste pour eux, oui et non. D'abord parce que je pense qu'ils sont très contents de jouer ce mondial, et puis c'est dans ces compétitions internationales que les équipes les plus modestes apprennent. Et engrange de voilà, mais il y a pas comparaison les infrastructures, le soutien à l'équipe namibienne de rugby, les moyens, c'est pas rien n'est comparable. Et alors certains disent c'est dur pour la Namibie. Sachez que la plus grande forme de respect d'une équipe forte, ultra dominante comme ça, par rapport à une équipe qui est beaucoup plus faible, la plus grande forme de respect, c'est que cette équipe, donc très forte, donne tout, justement, et ne lève pas le pied. C'est ça le respect de l'adversaire, en fait, notamment dans le rugby. C'est voilà, de pas lever le pied en mode, voilà, c'est tellement facile, on va... Pff, cool, on va ouvrir un petit 40-0, c'est tout. Et donc le respect, à ce niveau-là, c'est justement de jouer comme si c'était les Sud-Africains, les All Blacks, à leur meilleure époque, les Irlandais, les Écossais, voilà. Comme le dit Ribon TV... qu'il le résume très poétiquement, le respect de l'adversaire, c'est de leur marcher dessus. Bah ouais, là, ouais. En vrai, ouais. Et les Namibiens, même s'ils se prennent une grosse tôle ce soir, s'ils sentent que les Français ont tout donné, eh ben, ils seront fiers. Ils seront fiers. Non, c'est pas humiliant. C'est pas humiliant. Il y a Spaf qui dit c'est un peu humiliant. Non, c'est pas humiliant. C'est pas humiliant. Et en plus, il y a Pied de Métal qui me dit qu'en plus, ils jouent bien et qu'ils ont des bonnes phases de jeu. Vous voyez ? C'est marrant parce qu'on parle beaucoup de rugby. C'est bien. Ça, on va en parler demain dans l'hebdo Étienne parce que ça se passe demain d'ailleurs, je crois. Non, ça se passe. Non, on en parle demain soir parce que ça se passe samedi. Ouais, c'est ça. On aura même un petit temps d'avance. Emmanuel Macron à Marseille. Le pape vaut bien une messe au Vélodrome. Les gens sont pas d'accord là-dessus. Les journaux, les médias ne sont pas d'accord là-dessus. Est-ce que le président français Emmanuel Macron a raison d'assister à une messe, hein, donnée par le pape, certes, à Marseille, dans un État qui se veut un État républicain, qui se veut laïque. Le 22 et 23 septembre, le pape François est l'invité, alors non pas de la France, hein, enfin de l'État français, mais des rencontres méditerranéennes organisées à Marseille, donc c'est important. Le samedi, Emmanuel Macron va donc assister à la clôture de cet événement et va assister à une messe donnée par le pape au stade Vélodrome. François, donc le pape François n'est pas invité par la France mais par l'archevêque de Marseille, ça c'est important. Voilà, donc c'est l'église en fait, hein, quand je dis le pape n'est pas invité par la France, je ne dis pas que Marseille n'est pas en France, je dis qu'en fait c'est l'église catholique française qui invite le pape François, l'église étant l'organisateur des rencontres méditerranéennes du 17 au 24 septembre. Emmanuel Macron a donc décidé d'assister à une messe géante au Vélodrome. Je vois le débat qui commence dans le chat. Il va assister à une messe géante au stade Vélodrome. La présence du chef de l'État à une cérémonie religieuse a été critiquée, notamment à gauche, notamment à LFI. Mais l'Élysée a réponse à tout et dit, est-ce qu'on imagine le général de Gaulle bouder le Tédéum à Notre-Dame de Paris pour la libération de la capitale? Le palais précise que VGE, Valéry Giscard d'Estaing, avait assisté à une messe de Jean-Paul II en 1980 et note que François Fillon avait représenté le gouvernement devant Benoît XVI en 2008. Donc à l'Élysée, on dit, mais il y a des exemples historiques, le général de Gaulle a assisté à une messe, Valéry Giscard d'Estaing a assisté à une messe, François Fillon, qui n'a jamais été président, il aurait bien voulu, mais... une histoire de costume, assister à une messe. Vous verrez qu'il y a un historien tout à l'heure qui dira « Mais ces exemples n'ont aucun sens. Ouais. » Emmanuel Macron n'aborde... Alors, ce qui m'intéresse dans l'opinion, c'est une analyse assez précise du rapport à la religion du président Macron. Et là, j'apprends des choses que je ne savais pas. Quel est le rapport du président Macron à la religion? Vous savez, vous? Moi, j'ai appris des trucs, là. Emmanuel Macron n'aborde pas les religions comme ses prédécesseurs. Son histoire personnelle le distingue. Quand il entre en sixième, au collège La Providence d'Amiens, tenu par des jésuites, le jeune Macron, qui est issu d'une famille laïque, découvre le catéchisme. À 12 ans, démarche peu banale, il vient d'une famille laïque, il vient d'une famille qui n'est pas une famille de croyants. À 12 ans, il demande à être baptisé, puisqu'il ne l'a pas été à sa naissance. Sa famille laisse faire, il choisit donc sa grand-mère pour marraine, son oncle pour parrain, bien que ces deux d'ailleurs ne soient pas croyants. Et lui-même ne le sera d'ailleurs que pas très longtemps, 2 ou 3 ans, explique l'opinion. Et puis après, il va devenir agnostique, je définirais agnostique pour ceux qui ne connaissent pas le mot. De cette période, le futur président garde un intérêt pour les cultes. Il se définit comme un esprit métaphysique, il croit à la spiritualité. Il a fait l'expérience de la conversion, puisqu'il s'est converti. Toute conversion est un choix. Si aujourd'hui il est agnostique, il a une compréhension de la psychologie du croyant bien supérieure à celle de Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy ou François Hollande, estime Jean-François Colombani, qui est directeur général des éditions du CERF. Agnostique, bon, je pense que vous connaissez le mot. Croyant, je crois en l'existence d'un dieu, d'une... comment dire, d'une entité supérieure à l'origine peut-être de la création du monde et qui entend que ce monde soit régi selon certains principes et valeurs. Voilà. Donc il y a les croyants, vous avez les athées qui disent Dieu n'existe pas, hein, dans la philosophie marxiste, Karl Marx dit Dieu n'existe pas, Nietzsche a dit Dieu est mort, voilà, Dieu n'existe pas. Athée. Et puis agnostique. Agnostique, alors agnostique, qu'est-ce que c'est agnostique? Agnostique, celui qui ne sait pas. Il ne dit pas que Dieu existe. Il ne dit pas que Dieu n'existe pas. Athée. Il est en chemin, il est en interrogation. Est-ce qu'il y a quelque chose au-dessus de nous, un principe supérieur qui aurait participé à la création du monde? Est-ce qu'il y a quelque chose après la mort? Il est en chemin, il est en interrogation, voilà. Donc il n'est ni croyant ni athée, agnostique. Il est en marche. Ah oui, d'ailleurs, c'est drôle parce que Zeratol me... parce que je définis l'agnosticisme comme une marche vers la connaissance, vers l'interrogation, vers le doute, et du coup, il est en marche. Agnostique. Ah, c'est pas faux, il y a Coltem qui dit, pour être plus précis, Marx s'attaquait plus à la religion qu'à l'idée de Dieu. C'est pas faux. Tu as raison. Alors, personnellement, j'en parle d'autant plus aisément que je me définis comme agnostique. Je ne suis pas croyant, je ne suis pas athée. C'est pour ça que j'ai du respect pour les athées comme les croyants. Il en faudrait un peu plus dans ce monde, d'ailleurs, de tentative de compréhension des autres, même ceux qui ne croient pas comme vous. Mais je suis en chemin vers, je ne sais pas, on verra bien. Donc, aujourd'hui, il est agnostique. Mais il aime les religions, il sait leur parler, il les crédite d'une dimension sociale, il pense qu'elles peuvent jouer un rôle éducateur, dit donc ce même monsieur Jean-François Colosimo. À condition qu'elles respectent les principes de la République, c'est le sens de la loi du 27 août 2021 qui vise, sans les nommer, les dérives de l'islam fondamentaliste. Donc vous avez un journal, L'Opinion, qui finalement vous dit « Oh !» C'est pas si mal, président français qui assiste à la La messe donnée par le pape François samedi à Marseille, bah, après tout, pourquoi pas, il a une forme de respect pour les religions. Voilà. On va lire un article qui dit exactement l'inverse dans un instant. À Marseille, il sera beaucoup question de migration. D'un côté, un président français qui tente d'imposer une application stricte du droit d'asile. De l'autre, un pape qui prône l'accueil et l'humanité, hein, par rapport aux migrants. Message irréconciliable, point d'interrogation. Heureusement, l'Europe est là et les deux devraient se trouver d'accord pour dire que les solutions sont à chercher au niveau européen dans un partenariat plus large avec les pays de départ. C'est l'espoir de l'Élysée. Beaucoup de papiers en ce moment sur la question migratoire qui s'est passée à Lampedusa. Je pourrais vous en parler tous les jours pendant des heures. Bon, j'en ai pas aujourd'hui, mais on aura l'occasion d'en reparler. La parole maintenant. Après ce papier de l'opinion qui dit « Ouais, il y a R », comme dit l'ami Étoile, voilà, pourquoi pas assister à la messe du pape François, Marseille, allez, ça le fait, quoi. Et il y a un historien dans Le Monde, qui s'appelle Jean-Noël Jeannet, qui dit « Mais non, mais pas du tout, mais quelle connerie !» Rien ne justifie que le président assiste à la messe au stade Vélodrome. Aucun précédent ne peut motiver l'entorse à la loi de 1905, loi de séparation de l'Église et de l'État. Que se prépare à commettre Emmanuel Macron en se rendant à la messe que va célébrer François à Marseille samedi 23 septembre, c'est ce que dit l'historien. Aucun précédent ne peut motiver cette entorse à la loi. Vous avez un historien qui dit en fait qu'il est dans l'illégalité, le président Macron. Hop, zoomons. La présence d'Emmanuel Macron à la messe que le souverain pontife va donner samedi, au stade Vélodrome, waouh, Fédrapi, merci pour le 8e mois et pour le soutien, c'est adorable, est malvenue. Dit cet historien. Qu'il accueille François hors des lieux de culte, avec tous les honneurs qui lui sont dus comme chef d'État, puisqu'il est chef d'État du Vatican, hein. Pas de souci. Mais là, il s'agit d'autre chose. De la République, incarnée par son président, se portant au cœur de l'expression rituelle d'une religion qui est pratiquée parmi d'autres sur notre sol, qui est pratiquée parmi d'autres religions sur notre sol. Alors effectivement, l'historien va revisiter l'histoire et va aller voir ces présidents qui, dans l'histoire de France, ont assisté à des messes. Hein. Après l'armistice de 1918, ou qui n'ont pas assisté d'ailleurs, le cardinal Hamet, archevêque de Paris, organisa un Tédéum à Notre-Dame, donc à la fin de la guerre 14-18, et il y convia les représentants de l'État. Hein. Clémenceau notamment, le père Lavictoire, qui était le chef du gouvernement de l'époque. Il n'y avait pas de président à l'époque. Le pouvoir était aux mains du chef du gouvernement, du président du Conseil. Et Clémenceau s'opposa radicalement à cette perspective. Il a dit mais non, et moi je ne veux pas aller à la messe. Et puis mes ministres ne vont pas aller à la messe non plus. Hein. Des cérémonies d'église organisées en présence du gouvernement de la République, non, répondit Clémenceau en 1918. Le tigre, c'était son surnom, répondit que la loi française l'excluait absolument. Ce n'est pas un débat d'aujourd'hui. Hein. L'État, tout en protégeant ardemment les divers cultes, la laïcité, ce n'est pas la négation de la religion. Hein. La laïcité, c'est la création, c'est ma définition à moi, hein, parce qu'il y a plein de définitions de laïcité, c'est la création d'un espace commun où on respecte les croyances des uns et des autres, des athées, des croyants, des agnostiques, voilà, à condition que, évidemment, les croyants aient cette même tolérance vis-à-vis des autres, bien sûr, et par ailleurs, dans la définition stricte de la laïcité à la française, eh bien, n'exprime pas dans certains lieux, notamment les lieux comme l'école par exemple, l'appartenance à une religion par des signes extérieurs. Vous connaissez le débat. Donc Clémenceau dit non. L'État, tout en protégeant ardemment les divers cultes et leur exercice, ne devrait se mêler d'aucun culte. Alors, l'historien Jean-Noël Jeannet dit « Ah, on entend aujourd'hui dans la bouche du président ou à l'Élysée tel ou tel précédent historique justifiant l'entorse qui se prépare à l'esprit de la loi de 1905. » Et l'historien dit « Aucun de ces précédents n'est valide. Qu'un président assiste, même sans aucun geste d'adhésion religieuse, signe de croix, prendre l'hostie, tout ça, à une cérémonie pour une personnalité défunte dans le temple de sa foi, fort bien. » Ça, c'est la petite distinction qu'il fait. Je reprends la phrase, qu'un président assiste, sans faire aucun geste d'adhésion, hein, à une cérémonie pour une personnalité défunte dans le temple de sa foi, pas de problème. Quand le président français, dit l'historien, s'est rendu dans une synagogue en 2015, après l'attentat à l'hypercachère, pas de souci. Il venait soutenir des croyants dont il n'était pas, parce que plusieurs de leurs co-religionnaires avaient été frappés pour cela. C'était un hommage aux victimes, c'était un hommage à cette communauté frappée. Hein, c'était pas un signe religieux. En juillet 2016, après la décapitation du père Jacques Hamel par des djihadistes dans son église de Saint-Étienne-du-Rouvray, le même François Hollande vint à juste titre à la messe en son hommage, hommage à ce prêtre. On parle beaucoup de De Gaulle en ce moment, dit l'historien. Alors De Gaulle s'est rendu à Notre-Dame, non pas pour une messe, mais pour un magnificat, dit l'historien, lors de la libération de Paris. C'est un précédent qui est cité actuellement par l'Élysée. Il n'était pas question, en l'occurrence, c'était la libération, de saluer une église qui, en plus, n'avait pas été impeccable durant l'occupation, mais de se rassembler, voilà, à Notre-Dame dans un haut lieu de l'histoire de France. Alors, Le Monde raconte une anecdote où, à un moment, manifestement, le président De Gaulle s'est vu proposer une hostie alors que c'était pas du tout prévu, voilà. Donc genre comme ça, et voilà, il a dit que c'était inconcevable, impossible de la refuser, que ça aurait fait un scandale, mais qu'il aurait piqué une colère noire qu'on lui ait en quelque sorte imposée. Il était croyant par ailleurs, hein, De Gaulle, je crois, hein, mais il séparait bien la question personnelle de la croyance, de la place de la religion dans la société, dans un pays laïque. Et il serait mis dans une colère noire après qu'on lui ait en quelque sorte imposé de prendre l'hostie, quoi. Alors, certes, dit notre historien, là, M. Jeannet, le président Macron a promis qu'il allait s'abstenir à Marseille de tout geste religieux, pas de signe de croix, pas de. Comment on dit qu'on prend l'hostie, ça fait longtemps, moi. La confession ? Non, merde. Merde, je suis nul. Catéchisme. Merde ! Communion, là, merci. Donc pas de communion. Nous ne risquons donc pas, dit-il, en l'occurrence, de revoir Nicolas Sarkozy allant dire au Vatican, non sans faire plusieurs signes de croix, que la France était la fille aînée de l'Église. Donc manifestement, le président Sarkozy, lui, était sur une autre lecture de la laïcité. Il n'existe, nous dit notre historien, qu'un seul cas, sauf erreur, depuis 1905, où un chef de l'État a assisté à une messe célébrée par un pape en visite dans notre pays. Ce fut le jour où, effectivement, Valéry Giscard d'Estaing choisit de le faire sur le parvis de Notre-Dame lors de la visite en France de Jean-Paul II. C'était le 30 mai 1980. Et, eh bien, il avait tort, nous dit l'historien. Voilà. Il n'aurait pas dû le faire. La doctrine de Clémenceau, 1918, est-elle dépassée ? S'interroge l'historien. Certains veulent le croire, et cependant, dans un temps où la place de l'islam en France, en particulier, soulève tant d'interrogations. Elle garde plus de force que jamais. Comment ne pas se persuader que nos compatriotes musulmans, auxquels on impose à juste titre une stricte laïcité, éprouveront le sentiment d'une insupportable inégalité de traitement. Il eut grand tort. Ok, argument. Psy Duc des Ardennes, tu as écouté l'article comme moi. L'argument, il est évoqué sur ce qu'en pensait Clémenceau. Hein. Clémenceau estimait qu'aucun responsable de la République ne devait participer à une messe dans un État laïque. Voilà. Séparation de l'Église et de l'État. Loi de 1905. C'est assez clair, en fait. Voilà. L'argument, il est là. Alors, vous partagez ou pas, mais l'argument, il est là. Et donc, pour cet historien, seul VGE l'a enfreint. Et il n'aurait pas dû. Allez, je vous lis un petit peu. Après, je trouve que l'article va pas assez loin parce que Sylvain Tarba rappelle que le président Macron a fait des ruptures du jeûne, des ftours musulmans. Je crois que c'est vrai et ça doit peut-être être dans cet article. Ouais. L'article n'est peut-être pas complet, quoi. Ah, on me dit qu'il y a un essai de la Namibie. Voilà. Eh ben c'est beau. Non, remontada, non, mais non. Ribon TV, non, remontada, non, mais. Mais c'est bien, c'est très très bien. Ah, ça c'est bien aussi. Enfin, c'est bien. Ça c'est très important. Je vous saoule avec ça. Je vous en parle souvent. De ce fléau contre lequel un début de prise de conscience est intervenu dans la société française, dans les médias français, dans la classe politique française, qui est le fléau du harcèlement à l'école. Voilà. Donc, on en parle de plus en plus, et c'est tant mieux. Et des outils commencent à être mis en place pour lutter contre ce fléau. Je pense qu'il faudra quelques années pour le faire reculer. Mais il se passe quelque chose. Et là, il vient de se passer quelque chose sur lequel il y a débat. Merci, MMGCTF. Monsieur Dodo, un grand merci pour le 13e mois d'abonnement et bon courage pour le déménagement, parce que ça, c'est fatigant, ça. Premier streamer de ce nouveau chez moi. C'est gentil, ça me fait plaisir. Hop, hop, hop. Comment on fait? Oh, l'ami David Mourier est avec nous. David, comment ça va? Donc, David était en stream. David, qu'on a beaucoup vu streamer ensemble avec l'ami Poulpe quand ils faisaient leur matinale tous les deux. C'était bien, c'était bien, c'était bien. David était en live ce soir. Hop. Hop, hop, hop. Sur quoi de quoi, de quoi, de quoi, de quoi, de quoi?
L'expédition dit.
Eh ben.
Alors, on a une énorme nouvelle à vous raconter.
Sur la planète aride?
Oui, sur la planète aride. On a découvert une ancienne maison qui a été construite par une civilisation qui a disparu aujourd'hui. Et dedans.
Mais il y avait du beau monde là. Mais c'était là, c'était là? C'était là? C'est quoi ce. Ah, mais non, c'est la chaîne de Mister. Je crois que c'était chez toi. D'accord, ok. Géopardy, vous regardez Géopardy? Là, il y avait Fibre au Tigre et tout. D'accord, je comprends. Le Morning Glory reviendra, mais j'espère bien que le Morning Glory reviendra. Back to the Jeopardy, c'est-à-dire, on a regardé un Jeopardy 91. Ok. Ok. Merci en tout cas, David. J'espère que tout va bien. Voilà. Et je suis content de te voir en live ce soir. Petite revue de presse du soir, puisque ce matin, j'ai pas streamé, du coup, ça m'a manqué. Merci beaucoup. David Mourier et Monsieur Poulpe me font mourir de rire et font mourir de rire tout le monde. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de plaintes. C'est pour ça d'ailleurs que le Morning Glory s'est arrêté, puisqu'il y avait effectivement il y a beaucoup d'accidents liés au rire chez les gens. Voilà. Il y a beaucoup de. Ah, petite nouvelle pour Antoine Dupont qui sont pas. Ouh là là. Protocole commotion pour Antoine Dupont, c'est pas bon ça. Il y a un carton du côté des Namibiens. Ouh, yoyoyoy. Pas bon ça. Pas bon ça. Pas bon. Pas bon ça. Bah tiens, je vous en parlerai de ça tout à l'heure. Parce que j'ai un petit avis là-dessus. Parlons donc de harcèlement scolaire. Alors, il y a un début de prise de conscience dans notre pays, et la preuve, il vient de se passer quelque chose qui est assez débattu. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Un collégien harceleur, donc, a été interpellé en plein cours. La police l'a placé en garde à vue, donc c'est un ado, hein, qui avait, qu'est-ce qu'il a fait? Menacé, insulté une lycéenne sur les réseaux sociaux. On va voir exactement. John Snowboard est en train d'évoquer les mots extrêmement violents que ce jeune homme avait eu vis-à-vis de cette lycéenne qui était en transition. La réponse était-elle la plus adaptée? C'est la question. Après l'émotion suscitée par le suicide le 5 septembre dernier de Nicolas, un jeune homme de 14 ans, dans un collège dans le Val-de-Marne, donc dans le, pas confondre, Nicolas, il avait 15 ans, voilà, donc c'était le garçon qui s'est suicidé après avoir été harcelé dans les Yvelines. Là, c'est un élève de 14 ans du collège Henri Barbusse à Alfortville dans le Val-de-Marne qui a été interpellé lundi en plein cours. Imaginez, 14 ans, collège, la porte s'ouvre, des policiers, arrestation. Scène est assez forte. Pourquoi? Pour des menaces et insultes à caractère homophobe prononcées durant le week-end sur une boucle Instagram. Ces propos visaient une jeune fille en pleine transition de genre qui était inscrite dans un autre établissement de la ville. Quelques heures plus tôt, la famille de la victime avait été reçue par la proviseure du lycée où cette jeune fille était scolarisée pour évoquer ses faits de harcèlement. Selon les infos recueillies par Le Parisien, la jeune fille venait de démarrer sa scolarité au lycée. Il n'y aurait pas eu d'événement antérieur signalé à ce week-end. Selon une source, la jeune fille en fait échangeait avec des camarades de classe sur cette boucle Instagram à laquelle a été invité le collégien qui était un ami d'un lycéen. Il a ainsi pu être clairement identifié à travers son compte sur Instagram. Suite aux propos tenus, plusieurs lycéens se sont désolidarisés et d'ailleurs avaient quitté le groupe. Reste à comprendre pourquoi la police est intervenue en plein cours vers 16h pour l'interpeller. Nous échangeons avec les autorités concernées pour comprendre dans quelles conditions des policiers ont pu être amenés à intervenir dans un établissement scolaire pour procéder à l'interpellation d'un élève en classe. A précisé le rectorat de Créteil. Toujours selon nos informations, dit Le Parisien, le collégien aurait proféré, qu'a-t-il dit, des menaces de mort et tenu des propos d'incitation au suicide, enfin les mots, je ne vais pas vous les lire, mais vous les trouverez facilement, ils sont d'une violence inouïe. Ce qui, donc ces menaces de mort et ces propos d'incitation au suicide, ont entraîné l'intervention rapide des forces de l'ordre. Placé en garde à vue, l'adolescent a reconnu les faits. D'après les premiers éléments recueillis, l'auteur présumé du harcèlement semble être lui-même en grande souffrance, et c'est souvent le cas chez les élèves harceleurs, et il faut l'intégrer, et il faut le comprendre, sinon on ne comprend pas ce phénomène. Élevé par son grand-père après le décès de son père, il sera en situation d'échec scolaire après deux exclusions de deux autres établissements scolaires. Il a été déféré pour menace de mort et violences volontaires psychologiques ayant entraîné un arrêt inférieur à 8 jours en raison de l'orientation sexuelle, a annoncé le parquet. L'adolescent sera convoqué en vue de la mise en œuvre d'une mesure de réparation pénale, poursuit le parquet, mesure alternative qui consiste en une activité au profit de la collectivité, définie, encadrée par un éducateur, une réponse rapide et concrète choisie selon le parquet, au vu de son très jeune âge, de son absence totale d'antécédents, c'est important, et de sa prise de conscience manifestée par des regrets et des excuses. Priscille dit, et tu n'es pas la seule, ou le seul, et donc ça justifie le fait d'insulter et d'harceler les autres? Pas du tout. Personne n'a dit ici que de se pencher sur le cadre familial dans lequel évoluent les harceleurs les excusait, mais c'est juste un constat, hein, que tous les gens qui s'intéressent au sujet font, c'est-à-dire que souvent, les élèves harceleurs sont dans un contexte familial qui est compliqué, sont parfois eux-mêmes en souffrance. Ça n'est pas une excuse en aucun cas, hein. Mais pour comprendre le phénomène et lutter efficacement contre le harcèlement, en fait il faut s'intéresser aux harcelés et les protéger beaucoup plus qu'ils ne le sont, et il faut aussi s'intéresser aux harceleurs pour comprendre comment mettre fin au phénomène. Voilà, comme le dit Gat dans le chat, comprendre n'est pas accepter. On est sorti du déni sur le harcèlement, c'est positif, se félicite la Fédération des parents d'élèves du 94, mais c'est là le débat. On peut se demander si la réaction n'aurait pas pu être plus proportionnée. Voilà. Le débat, il est là, il est dans la croix qui donne la parole à deux personnes qui sont en lutte contre le harcèlement scolaire, mais qui ne sont pas d'accord sur ce qui vient de se passer. À gauche, vous avez Bruno Bobkiewicz, qui est secrétaire général d'un syndicat d'enseignants, syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale. Et puis vous avez Nora Fraisse-Tirane à droite, qui est déléguée générale fondatrice de l'association Marion la main tendue, en hommage à sa fille qui a été victime de harcèlement. À gauche, vous avez donc Bruno Bobkiewicz qui dit: la méthode ne doit pas l'emporter sur le fond. On ne peut pas d'un côté, dit-il, se plaindre à longueur de temps que l'État et l'éducation nationale traitent mal les questions de harcèlement, et d'un autre dénoncer le fait qu'un jeune soit arrêté pour ses raisons. C'est ce que dit Remake dans le chat. Pour une fois qu'il y a une réaction forte et rapide de la police, je ne peux que dire bravo. L'interpellation d'un élève pour qu'il soit entendu sur des soupçons de harcèlement n'est pas foncièrement un problème. La police est amenée à entendre ses élèves. Ce n'est pas illogique, ce sont des choses qui arrivent régulièrement. Concernant maintenant, ce syndicaliste dit qu'un élève soit interpellé pour répondre d'accusation, aucun souci. Mais concernant l'interpellation de l'élève en plein cours à Alfortville, ce syndicaliste dit: cet événement est une maladresse. Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, lui, mercredi, a dit que cette interpellation s'était faite en conformité et doit permettre d'envoyer des messages très forts aux harceleurs. On sent que du côté du gouvernement, on valide plutôt ce qui vient de se passer. Mais, dit ce syndicaliste enseignant, il y a un souci dans la forme. Il est en effet régulier qu'un élève soit convoqué ou interpellé dans son établissement scolaire par la police pour différentes raisons. Car c'est un lieu, on est quasiment sûr de le trouver. En tant que chef d'établissement, ce sont des choses que nous sommes très nombreux à avoir vécues. Même si rien n'est interdit, il est anormal dans la vie quotidienne d'une classe de voir un policier derrière la porte et un élève interpellé devant tous les autres. Ce n'est pas comme cela que l'on fait d'habitude. Il est proviseur, hein, ce syndicaliste, hein. Il est proviseur dans une école à Paris. Il dit: d'habitude, c'est pas comme ça que ça se passe. Le protocole habituel entre l'éducation nationale et la police n'est pas celui qui a été mis en place à Alfortville. Normalement, la direction et les forces de l'ordre se mettent d'accord sur des modes opératoires différents qui sont plus cadrés. Je lis la croix, Crime 57, arrête de dire des bêtises. Pour plus de discrétion, il est d'usage que ce soit d'abord des policiers qui ne sont pas en tenue, qui viennent dans l'établissement, puis c'est l'équipe pédagogique, et en particulier la direction, qui va chercher l'élève dans la salle de classe, avant de l'accompagner dans le bureau du proviseur où se trouvent les forces de l'ordre. On évite aussi que l'élève soit menotté dans l'établissement. Dans l'idéal, tout doit se passer en douceur. Donc vous avez un syndicaliste enseignant qui dit arrêter un élève qui doit répondre des faits, même dans l'école, oui, mais pas dans la classe, quoi. Et vous avez à l'inverse une dame qui s'appelle Nora Frestiran, qui a fondé une association qui s'appelle Marion la main tendue en hommage à sa fille victime de harcèlement, qui dit si, si, c'est bien ce qui vient de se passer, écoutons-la. L'arrestation de l'élève harceleur dans sa classe sera-t-elle dissuasive? Je l'espère, dit-elle. Je pense qu'il s'agit d'un marqueur fort qui aura peut-être le mérite de faire comprendre qu'il n'y aura plus d'impunité. L'émotion que ça suscite est légitime, hein. L'idée même d'une interpellation en pleine classe a bien sûr quelque chose de choquant, mais, cette phrase est importante, mais si tel était le prix à payer pour éviter la mort d'un enfant, alors j'estime qu'elle aura joué son rôle. Dans cette affaire, de quoi parlons-nous ? D'une principale de collège confrontée à une situation dangereuse. Concrètement, elle apprend que pendant le week-end, un élève a menacé une camarade, a parlé de l'égorger. Hein ? Il ne s'agit donc pas d'un simple harcèlement, mais d'une menace de mort qui, dans le cadre scolaire, ne peut être que prise très au sérieux. Elle ne peut que raviver le traumatisme de l'affaire Paty, Samuel Paty. Chacun a été dans son rôle, dit cette dame. La directrice a saisi le procureur, qui, au vu de la gravité des propos et du risque couru, a décidé de frapper fort. Si l'un ou l'autre avait agi différemment, ils auraient pu être accusés d'avoir minimisé le risque. Il semble, dit cette dame, que cet élève particulier ait écopé d'une mesure éducative. J'espère qu'elle lui permettra de travailler au sein de structures de lutte contre le harcèlement, ce serait bien, afin qu'il comprenne, qu'il constate les dommages produits sur les victimes. Un point me frappe particulièrement. Quand on demande à ce jeune garçon de 14 ans, pourquoi il a dit de telles horreurs, il a répondu qu'il n'avait pas su gérer sa colère. C'est là le grand chantier qu'il faudra aussi un jour, dit-elle, ouvrir dans l'éducation nationale. Apprendre aux enfants les compétences psychosociales qui permettent de se maîtriser, de se comporter dans la vie quotidienne, sans lesquelles rien ne changera vraiment. Voilà. Merci à la Croix qui, en fait, oppose deux regards, deux analyses sur ce sujet. Allez, je vous lis un petit peu là-dessus. Peut-être faire un petit déca après. Manger un petit bout de pain pour me relancer là, 2 heures de stream. Manon me dit, il y a des suicides à cause de mecs comme lui, donc ouais, c'est très bien. Hein, ce sont des faits avec risque de mort d'homme, comme dit Minbad. Hein. Ça aura peut-être un impact sur les autres harceleurs, me dit Précide. Hein, peut-être que, effectivement, ce qui vient de se passer, et je pense un peu comme vous, peut devenir une dissuasion contre les harceleurs. Peut-être que ça va faire réfléchir des élèves qui sont aujourd'hui ou pourraient se retrouver en situation de harceler. Bartval. Ayant subi un harcèlement sévère durant mes années collège, je ne peux que saluer cette initiative brutale, certes, mais nécessaire. Honte à ces gosses sans humanité. Ceux qui trouvent ça honteux n'ont jamais connu le harcèlement de leur vie. Peu importe son passé, ce n'est absolument pas une raison. Mais, oh, personne ne cherche à excuser l'agresseur. C'est juste qu'en fait, pour lutter efficacement contre ce phénomène, j'en parle très régulièrement, Bartval. Il faut comprendre d'où il vient, en fait. C'est comme ça qu'on arrivera à lutter efficacement et à supprimer le harcèlement. Pas seulement par la répression, même si la répression est importante aussi, quoi. Donc ça n'est absolument pas une excuse. Mais de comprendre un phénomène, ça n'est pas l'excuser. D'ailleurs, je trouve que même si c'est assez violent ce qui vient de se passer, je trouve que c'est plutôt pas mal, en fait. Ça peut envoyer un signal. Merci David. Merci Sénèque pour le quatrième mois d'abonnement. Voilà, on aura l'occasion, hélas, de reparler de ce sujet. Puisqu'il y aura d'autres affaires. Alors, vous me demandez régulièrement de trouver aussi des bonnes nouvelles dans l'actualité. J'en ai, avec des énormes progrès ces dernières années en matière de lutte contre les cancers pédiatriques, les cancers de l'enfant. J'en ai en matière de lutte contre la maladie d'Alzheimer. Bonne nouvelle. Rapidement, un petit mot de Elon Musk qui veut rendre X, enfin Twitter, payant, mais vraiment pour tout le monde, pas seulement pour les abonnés à Twitter Blue, mais pour tout le monde. Hop, tu regardes, tu payes, on va voir de quoi il s'agit. Et il y avait un petit papier sur le match qui a lieu en ce moment même entre la France et la Namibie, qui nous permettra de saluer ce grand monsieur qui est Mathieu Lartaud. Donc, les amis, moi je vais me prendre un petit déca à cette heure-là. Pensez fort à moi parce que là, petit stream pour quand même vous donner une petite dose d'actu parce que je n'étais pas là ce matin, mais après ça va bosser hein, parce que après je vais préparer la rencontre. L'hebdo Étienne de demain soir. Il faut que j'envoie mes choix d'actu à mes quatre invités. Tiens, je vous montre d'ailleurs pour ceux qui n'étaient peut-être pas là tout à l'heure. Hop, les invités de demain. Je suis assez content de cette jolie affiche. Demain soir dans l'hebdo Étienne, vous avez le retour de Rémi Buisine, le journaliste de Brut, que j'aime beaucoup. Full journaliste demain soir. Charlie Danger, la youtubeuse, elle devait être avec nous, puis finalement elle n'a pas pu. Elle viendra plus tard. Vous avez Paul Larouturou, le journaliste de TF1 et LCI, qui est full nouveaux écrans, nouveaux outils numériques en cette rentrée. Julia Molcou, journaliste, chroniqueuse culture. Et Géraldine Cornelavo, journaliste de l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, qui devient d'ailleurs partenaire de l'Hebdo Étienne. Donc ce soir, je vais bosser sur les thèmes. En fonction d'ailleurs de ce qu'ils m'ont dit aussi, de leurs envies sur l'actualité. Trois thèmes principaux, quatre cartes blanches a priori. Je mets ça au propre, ça va me prendre une petite heure. Donc ça, c'est après le stream. Donc du coup, je vais me faire une mini pause avant de partir, notamment sur les bonnes nouvelles en matière de santé. Hop, je vous mets une petite musique. Hein, je vous mets deux minutes de musique. Je vais vous mettre ça. Peut-être ça. Non, pas ça. Ça. Ok. Je vous dis là, dans un instant, je vais me faire un petit déca, je vais manger un ou deux crocodiles Haribo. Vous aussi, hydratez-vous. Mangez. Bon, vous aussi, mangez des crocodiles Haribo. Hop. Petite pause, c'est ici. A tout de suite, bande de belles personnes. Et merci d'être avec moi ce soir, c'est adorable. Tellement fatigué, je ne sais même pas où c'est. La musique. Elle est là. Elle est là, je crois qu'elle est là. Oh, mais je l'ai perdu. Elle est là. A tout de suite. Pas mal ça. À tout de suite. A reflection of you and I. bien ça. Hein. On se la recale, ce serait la petite musique du raid. Ah oui, j'ai repris le sport. Au fur et à mesure, me dit Sam, est-ce que tu as repris le sport? Tu l'avais promis, j'ai repris le sport. J'ai repris la course à pied. En octobre, j'ai un petit 20 km, là, ma première course depuis très longtemps. Merci Tris, je lis ton message. Merci, je comprends. Merci, je t'envoie de la force et je te remercie. Merci à toi. Oui. Donc moi j'ai arrêté le sport l'an dernier pour parce que je n'avais plus de temps dans ma vie et trop de travail et donc très mauvaise idée. Le corps est parti en sucette. Le souffle s'est raccourci, le cœur s'est accéléré, le gras s'est installé. Enfin bref, très mauvaise idée. Je vais mettre une plombe à retrouver la forme d'avant, mais c'est fait. Donc on a repris la course à pied, on a même repris un petit peu la natation, quoi. Allez, dans l'actualité, il y a aussi des bonnes nouvelles. Hop, notamment en matière de santé. Et alors j'ai trouvé ce dossier formidable dans La Croix. Ça, si c'est pas une bonne nouvelle, en matière de lutte contre les cancers de l'enfant, les pas de géants de la médecine. Il est beau ce titre. Des progrès immenses ont été accomplis pour améliorer le taux de guérison des enfants atteints d'un cancer ces dernières années, ces dernières décennies. C'est l'opération Septembre en Or actuellement qui est une opération pour sensibiliser le grand public justement au cancer pédiatrique, c'est en ce moment. Grâce au progrès dans les traitements, le taux de survie des enfants atteints d'un cancer est passé de 10% dans les années 60 à 80% aujourd'hui. De nouvelles études se consacrent à la recherche des causes des cancers chez l'enfant, qu'elles soient génétiques ou environnementales. Les chiffres sont éloquents, on est donc passé de 10% de chances de survie 5 ans après le déclenchement d'un cancer en 1960 à plus de 80% aujourd'hui. Donc vous voyez, parfois il y a des choses qui s'arrangent quand même de notre monde, qui vont un peu mieux. Pour en arriver là, chaque décennie en fait a connu son lot d'avancées et La Croix de détailler toutes ces avancées. Dans les années 60 par exemple, l'utilisation de la radiothérapie pour les tumeurs solides permet de sauver des vies au prix de lourdes séquelles parfois hélas, comme des enfants qui marchent de travers après avoir été irradiés d'un côté du corps par exemple. Les années 70 marquent l'avènement de la chimiothérapie dite multiple. On a compris à cette époque que l'on pouvait faire des choses différentes de chez l'adulte. Non seulement on peut délivrer plusieurs molécules à des doses importantes à des enfants, mais on peut aussi reprendre le traitement de façon plus rythmée, car les enfants ont plus de facilité à l'encaisser que des malades de plus de 50 ans. Merci David. Dans les années 80, nouveau progrès. L'autogreffe permet de prélever des cellules chez les patients, puis de les remettre pour relancer la moelle osseuse. Cette technique qui s'est élargie à l'allogreffe, c'est-à-dire cellules issues d'un donneur, dans les années 90, est venue apporter une pierre supplémentaire à l'édifice du contrôle de la maladie. Ce concept d'immunothérapie s'est élargi au cours des années 2000, qui ont vu alors arriver les anticorps monoclonaux, fabriqués par les industriels du médicament, pour cibler directement les tumeurs. Enfin, l'apparition des CART cells remonte au début des années 2010 et leur utilisation ne cesse de développer. Au début de l'article, vous avez une explication de ce que c'est à lire dans La Croix, c'est page 2. Chaque décennie a apporté donc des outils, des armes plus efficaces contre les cancers, notamment des cancers de l'enfant. Autre piste, parce que on continue de chercher bien sûr, qui n'en est qu'au stade de la recherche fondamentale, la programmation cellulaire et épigénétique, c'est passionnant. Une cellule tumorale et une cellule qui a échappé à sa trajectoire de développement normal, explique un chercheur, et on cherche à effectuer une reprogrammation de la cellule pour la détruire ou la remettre dans la bonne trajectoire. Depuis 2000, on est arrivé à une sorte de plateau. Vous savez, parfois en termes de recherche, eh bien, ça peut progresser vite et puis parfois très lentement. Donc là, on est sur un plateau, dit un spécialiste. Il ne suffit pas d'optimiser les traitements actuels. Il faudrait vraiment aujourd'hui ouvrir de nouvelles pistes thérapeutiques. Stéphane Vaudrenne, qui est représentant de la Fédération Grandir sans cancer, qui est fondation de l'association Eva pour la vie. On devine que ce papa a peut-être perdu un enfant. Dit, la quasi-totalité des progrès sont issus de ceux réalisés pour les adultes. Pour franchir un nouveau cap dans la lutte contre les cancers de l'enfant, il faudrait absolument s'attaquer aux cancers spécifiques à l'enfant, les sarcomes, les neuroblastomes et les tumeurs cérébrales. Pour y parvenir, il faut des moyens qui sont insuffisants aujourd'hui, des moyens financiers, la recherche, hein, Des moyens spécifiques sont désormais consacrés au cancer pédiatrique. Comme le demandaient les associations, ça commence. Depuis 2017, et l'arrivée d'une génération de députés plus jeunes, vous allez me dire, mais quel rapport ? Eh bien, ces députés plus jeunes souvent sont parents, et du coup, eh bien, des lois ont été votées pour débloquer plus de moyens pour lutter contre les cancers pédiatriques. Voilà. Il y a parfois de bonnes nouvelles dans l'actualité. Un enfant aujourd'hui, j'ai eu dans mon entourage très proche, il y a quelques mois, quelqu'un, un enfant qui a été touché par un cancer très agressif. Toute la famille s'est préparée à ce qui ne devrait jamais arriver, c'est-à-dire qu'un enfant parte avant les adultes, avant les parents. Et parce que les pourcentages évoqués par les médecins étaient vraiment très faibles. Et miracle ou progrès de la médecine évoqué ici par Lacroix, l'enfant en question, que je connais bien, est en rémission. C'est-à-dire que vous savez, on dit pas guéri d'un cancer, hein, parce que pendant plusieurs années, vous savez que la personne, même s'il n'y a plus aucune trace du cancer, est suivie, hein, voilà, tous les mois, tous les ans, etc. Et aujourd'hui, cet enfant a retrouvé une vie totalement normale et il n'y a plus aucune trace du cancer. Voilà. C'est incroyable. Donc, GG aux chercheurs et aux médecins. Et cool d'être en France avec un système de santé qui connaît des difficultés, mais qui est quand même incomparable comparé à d'autres. Alors, des bonnes nouvelles, j'en ai aussi. On va dire de l'autre côté de la ligne de l'âge, puisqu'on parle des cancers pédiatriques. Et là, on parle de la maladie d'Alzheimer, qui touche plutôt, en général, des personnes âgées. Et bien, du côté de la lutte contre la maladie d'Alzheimer, là aussi, il y a beaucoup d'espoir. Alors que se déroulait aujourd'hui, la journée mondiale de lutte contre Alzheimer, les scientifiques saluent des avancées majeures, tant dans la recherche de nouveaux traitements que dans la prise en charge des malades. En attendant le remède qui un jour peut-être soignera la maladie, les médecins insistent sur l'importance de la prévention. Sera-t-on un jour en mesure de guérir la maladie d'Alzheimer ? Écoute, ce serait juste formidable. Si cette perspective est encore lointaine, les récents progrès de l'immunothérapie, c'est-à-dire l'injection d'anticorps dans l'organisme du patient, donnent l'espoir de, pas de guérir, mais de ralentir les dégâts. On a un tournant dans la recherche, confirme un professeur qui s'appelle Luc Buet, qui est directeur de recherche au CNRS. On n'avait pas eu de nouveaux médicaments depuis le début des années 2000, surtout on était sur les traitements symptomatiques, on traite les symptômes, avec une amélioration en plus qui était très modérée pour les patients. Cette fois, il s'agit de traitements qui s'attaquent à une protéine qui est à l'origine de la maladie, le peptide amyloïde. Une nouvelle ère qui est en marche notamment aux États-Unis où deux traitements de ce type sont déjà commercialisés. Le professeur Bertrand Fougère, qui est chef du pôle vieillissement du CHU de Tours, met en garde quand même, nous appelle à rester prudents. Il faut bien avoir conscience que ces traitements ne guérissent pas la maladie. Ils ralentissent la progression du déclin cognitif. Ils concernent en outre un nombre de patients réduit à un stade très précoce de la maladie. Pourtant, le médecin en est convaincu, on va finir par trouver le traitement qui guérira la maladie. En attendant, de réelles avancées sont déjà visibles dans la prise en charge aussi hein, de cette maladie d'Alzheimer. Les patients sont mieux accompagnés, non seulement du point de vue médical, mais aussi sur le plan psychologique et psychosocial. Des progrès eux-mêmes liés à l'amélioration du diagnostic aussi, plus précis, plus précoce. L'amélioration de l'imagerie cérébrale, par exemple, permet de détecter les lésions dans le cerveau et d'en suivre l'évolution. D'ici deux bonnes années, on devrait aussi voir se généraliser des tests sanguins, pour l'heure utilisé uniquement dans le cadre de la recherche. Fin de l'article. Reste un axe essentiel, dit l'article de Lacroix sur la maladie d'Alzheimer. Un axe essentiel, trop souvent négligé, la prévention, car la maladie d'Alzheimer n'est pas une fatalité. Une étude publiée en 2020 dans The Lancet, qui est une revue scientifique, a montré que 4 cas sur 10 pouvaient être évités, c'est énorme, ou retardés grâce au mode de vie. Régime alimentaire équilibré, donc Samuel, on arrête les crocodiles à ribot. 2, vie sociale riche. Moi, j'estime que streamer et échanger avec des viewers, et souvent avec d'autres streamers d'ailleurs, pour les trucs ensemble, c'est une vie sociale riche, donc tout va bien. Une bonne audition. Oui, parce que ça paraît bizarre comme ça, mais en fait, en vieillissant, parfois, on n'entend pas bien. Et si on ne s'appareille pas vite, en fait, on va perdre dans la qualité d'échange avec les autres. On va moins bien entendre. On va même progressivement moins en moins échanger, tout simplement parce qu'on n'entend pas, on ne comprend pas. Et après, ça atteint les performances cognitives. Donc une bonne audition, c'est important. Ce qui et puis de l'exercice physique. Ok, donc jusque là ça va. Ce qui vaut d'ailleurs dans la prévention d'autres maladies comme le cancer. Donc la prévention, alimentation équilibrée, vie sociale riche, bonne audition, exercice physique. Voilà. Pour le Babybel, l'étude n'en parle pas. X. Alors, Twitter, on va dire Twitter parce que ça va faire bizarre, parce que si on commence à dire maintenant il va falloir payer pour consommer X ou du X, on va partir sur des pistes très étranges. Donc on va dire Twitter, ça va être plus simple. Hein. Elon Musk songe à rendre donc Twitter payant pour tout le monde. Twitter va-t-il devenir payant? Pas Twitter Blue, l'abonnement, machin, tout là. Non, payant pour tout le monde. D'ailleurs, genre, tu regardes un tweet, paf, tu payes. C'est Musk, donc le nouveau patron de Twitter, qui a évoqué lundi cette proposition choc pour le réseau social. Un petit paiement, dit-il, mensuel, obligatoire de la part des utilisateurs sera à ses yeux le seul moyen. Pourquoi il veut mettre ça en place? Alors moi, naïvement, je pensais que c'était pour se faire des sous, puisqu'il a payé sa chair et puis la publicité a fondu sur Twitter. Mais pas du tout, en fait, c'est pour notre bien. C'est pour notre bien qu'Elon Musk veut faire payer tout le monde, je cite, « C'est le seul moyen auquel je puisse penser, c'est con, pour combattre les armées de bots. » Ah, ah bon ? Alors, les bots, les faux comptes, hein, derrière lesquels se cachent des robots diffusant de manière artificielle et à haute intensité des arnaques ou des discours haineux, qui sont l'un des fléaux de la plateforme. Un bot coûte une fraction de centime, hein, celui qui le lance, mais si on doit payer ne serait-ce que quelques dollars par mois, pour ouvrir un compte Twitter à un bot, eh ben le coût effectif des bots devient plus élevé. Donc c'est l'argument de Musk, en fait. C'est pour nous protéger, en fait, des bots. Ce scénario a été accueilli avec scepticisme par les experts, on se demande bien pourquoi. Rendre Twitter payant serait un cadeau inespéré pour ses rivaux gratuits comme Threads de Meta. La décimation de la base utilisateur, il y a plein de gens dans le chat qui me disent si ça devient payant, je me barre, quoi. La décimation de la base d'utilisateurs détruira la valeur de ce réseau que Musk a acquis pour 44 milliards de dollars, disent des analystes. Rien ne dit que cette idée, d'ailleurs, sera suivie des faits. Musk a lancé l'idée, mais est-ce qu'il va la mettre en place ? Elon Musk avait déjà annoncé mi-août qu'il ne sera plus possible de bloquer un utilisateur sur Twitter. Un mois plus tard, cette fonctionnalité n'a toujours pas été retirée. Je vous lis un petit peu sur Twitter et on parle de rugby. Bon, tout le monde se barre si c'est bien payant ? J'ai l'impression que oui, hein. Sarah, bonne soirée. Bonne soirée, les beaux gosses, nous dit Sarah, ce qui est très gentil. C'est pour vous aussi. Elle est quand même bonne, l'histoire des bottes, hein, en vrai. Alors, il y a Fink, Jules, qui dit « Je quitte Twitter si ça devient payant. » Et toi, Samuel ? En fait, si Twitter devient payant, effectivement, de toute façon, à un moment, le truc va s'arrêter, là, en vrai. Donc, en fait, on quittera Twitter parce qu'il n'y aura plus personne. Hein. Non, on ira ailleurs. Hein. Un prix a-t-il été évoqué ? Jean Barnap, non, il dit quelques dollars, mais il ne précise pas. Tout ça est un petit peu flou, quoi. J'ai abandonné l'idée de vous donner tous les essais français dans le match contre la Namibie. Hop, d'ailleurs, on enchaîne, on y va. Parce que c'est trop, là. On me dit qu'on est à 87-0. Encore une fois, ça n'est pas une énorme surprise. Bon, c'est un score qui est très impressionnant. Tout à l'heure, on parlait d'un essai namibien, mais il a été refusé, manifestement. Alors 87-0, ouais, c'est énorme, mais ouais, c'est pas une énorme surprise, quoi. Frapper fort, c'était le titre de l'article du Parisien de ce matin. Le 15 de France remet ses cadres, ses patrons, ses meilleurs joueurs pour affronter de faibles Namibiens ce jeudi soir à Marseille, une manière de se relancer après le piètre match livré par l'équipe B. Les remplaçants, c'était face à l'Uruguay, donc c'était une victoire, c'était 27-12, mais les Français n'ont pas super convaincu. À Villeneuve-d'Ascq, les Bleus bis ont fait retomber l'ambiance avec cette bouillie de rugby après le beau match contre Nouvelle-Zélande, beaucoup de fautes, incroyable indiscipline, explique le Parisien. Et des réservistes coupables de surjouer, guidés par le secret espoir de gratter une petite place dans un coin de l'équipe type. Pas de chance pour eux, le staff a donc décidé d'aligner là, maintenant, en ce moment, ce soir, les meilleurs, les noms impressionnants pour affronter la Namibie, ce qui explique aussi ce score. Comme si on sortait la plus belle vaisselle pour se faire pardonner, c'est joli, après un repas raté. On va donc revoir les patrons Antoine Dupont. Vous avez des nouvelles Antoine Dupont? Parce que tout à l'heure il y a eu un procédure de commotion cérébrale. Vous avez des nouvelles de Dupont, s'il vous plaît? Ça m'intéresse. Damien Penaud, Gaël Ficou, relancer les blessés Cyril Bay, Jonathan Danty, continuer à donner un rythme au revenant Anthony Jelonche avant deux semaines de coupure. Et un dernier match de poule, ce sera face à l'Italie. Dupont sorti sur protocole commotion. Il a pris un sacré taquet, me dit Lilou Rennes. C'est chaud, ça. C'est chaud. Il est à l'hosto pour les examens. Klamakine me dit, Dupont à l'hôpital, peut-être fin de Coupe du Monde pour lui. Écoutez, quand j'ai lu cet article du Parisien, où Galtier avait donc, décidé d'aligner les meilleurs joueurs du 15 de France contre une des équipes les plus faibles de cette compétition, qui est la Namibie, j'ai pensé aussitôt, je me suis dit, c'est chaud quand même. C'est chaud parce qu'en fait, le match important, ça va être le quart de finale après l'Italie. C'est là le match qu'il faut gagner. Et là, on prend un risque, qui est le risque de blesser en fait nos meilleurs joueurs. Si, là, la polémique, elle est là. Hein, si Antoine Dupont ne revient pas jouer pour la suite de la Coupe du Monde après la blessure de ce soir, ça va être une grosse polémique. Ça va être une grosse polémique. Pardon, je comprends l'envie de montrer du spectacle, mais il n'y a aucun suspense. Avec quels que soient les joueurs qui auraient été choisis pour le 15 de France ce soir, la Namibie était battue, quoi. Donc, je ne comprends pas très très bien l'intérêt de mettre les meilleurs joueurs du 15 de France contre la Namibie ce soir. J'ai pas compris. Parce que il n'y a aucun suspense sur ce match, quoi. Le match important, c'est le quart, idéalement le demi, la demi et après la finale, quoi. Je ne comprends pas. Si Dupont, qui est quand même un des meilleurs joueurs du monde, il a été sacré meilleur joueur du monde d'ailleurs, du 15, et ne revient pas là après sa blessure de ce soir, c'est énorme erreur, quoi. Coup dur pour Dupont, coup dur pour l'équipe de France surtout. J'entends El Giganto, Klamakine, pour qu'ils aient du rythme, pour créer des automatismes, l'intérêt c'est qu'ils restent chauds pour la compétition. J'entends, c'est chaud quand même. Hein. Voilà. Avant le petit break, donc, et de jouer contre l'Italie, il y a donc ces Namibiens, c'est en ce moment même, disait le Parisien ce matin, malaxés par le 15 de France en 2007, 87-10 en 2007, vous voyez le score de ce soir. El Giganto 96-0, on n'était pas très très loin en fait. Hein. Lors de la dernière Coupe du Monde, 87-10, ils se sont pris 71-3 par les All Blacks. Ça montre à quel bout de la chaîne alimentaire du rugby se retrouve cette équipe, quoi. Donc, voilà. Vous verrez, la polémique, elle va être lancée. Hein. Si Dupont ne revient pas en quart, ça va être chaud. Hein. Alors après, c'est bien facile au chaud dans son fauteuil de stream de donner ce genre d'avis. Je suis pas un spécialiste, mais je sais pas. En tout cas, ça a été mon sentiment quand j'ai vu ce matin que Galtier avait aligné les meilleurs joueurs de son équipe contre le Namibie. Je me suis dit, faut pas qu'il y ait de blessure, quoi. Bon, je dis ça, je dis rien. Justement, à propos de rugby. C'est un monsieur pour lequel j'ai beaucoup d'admiration. Je vous l'ai déjà dit, je vous le redis, une pleine page dans le Parisien, et c'est mérité, le grand chelem de Mathieu Lartaud, le journaliste de France Télévisions, le passionné de sport, le fou de rugby, amputé en juin de sa jambe, cancer. Le commentateur de rugby de France Télé est présent pour le Mondial. Oui, il est venu dans l'hebdo Étienne, effectivement, et j'espère qu'il va revenir. C'était en juin dernier, donc Mathieu a été amputé de sa jambe droite. La faute, on parlait de cancer tout à l'heure, la faute à une rechute de son cancer du genou, le même qui, 25 ans plus tôt, l'avait déjà privé de la carrière de rugbyman dont il rêvait, hein, le poussant à devenir journaliste sportif pour vivre sa passion du sport, sa passion du rugby autrement. Habitué depuis lors à souffrir de cette jambe meurtrie, Mathieu Larteau finit par commenter le tournoi 2023 Destination en se bourrant d'anti-inflammatoires. Et puis ensuite, il passe plein d'examens médicaux qui lui confirment ce qu'il craignait. Son cancer de 25 ans plus tôt est reparti. Cette menace de la récidive planait au-dessus de nos têtes depuis longtemps. Philosophe Magali, qui est sa combative épouse, dit le Parisien, rencontré en 99. Nous n'étions pas surpris, mais plutôt dans l'action, dit l'épouse de Mathieu. Outre la chimiothérapie, les médecins préconisent une amputation du membre malade. Reste à trouver les mots pour annoncer cette décision aux proches, notamment à ses deux enfants, âgés de 12 et 18 ans. Et la maman explique que nous avons été transparents avec eux en insistant sur la mobilité que Mathieu allait pouvoir retrouver après cette opération, qui souffrait énormément de la jambe, et il avait une jambe qui était assez peu mobile. Et donc là, avec sa prothèse, paradoxalement, il retrouve une mobilité supérieure avant la situation, avant l'amputation. Par exemple, il a refait du vélo avec ses enfants, ce qu'il ne pouvait plus faire. Contraint de se retirer plusieurs mois de l'antenne, et là c'est là que ça devient fou. Mathieu Larteau prévient certains collègues du service des sports de France Télévisions. Ça a été un énorme choc pour Laurent Luya, hein, que vous connaissez, journaliste sportif de France Télévisions, qui est un grand ami de Mathieu. Impressionné d'emblée par l'état d'esprit du présentateur de Stade 2, il était déjà en mode, dit Mathieu. Dit Laurent, pardon, Laurent Luya, il était déjà en mode « je vais gagner ce combat ». C'est un sportif dans l'âme, je savais qu'il allait tout faire pour revenir le plus tôt possible. En avril, le commentateur officialise la nouvelle sur les réseaux sociaux, c'est là que nous, on l'a tous appris, et reçoit des centaines, des milliers de messages de soutien. Il faut dire qu'en deux décennies, à relater les rebonds du ballon ovale, ce fils d'une institutrice et d'un directeur commercial retraité a tissé un lien fort avec les téléspectateurs. Dès 2009, il n'a pas 30 ans à l'époque, la voix du 15 de France, la voix à France Télévisions qui commente les grands matchs internationaux du 15 de France. Graal décroché grâce à Daniel Bilalian, qui était le patron des sports de l'époque, séduit par son commentaire net et son fioriture et ses jeux de mots aussi. Il a ses forts en jeux de mots qui deviendront sa marque de fabrique. Suivra une décennie à rendre compte de matchs souvent perdus, hein, par l'équipe de France. Il a su commenter sans perdre en passion des défaites. S'amuse son compagnon de galère Cédric Baudou, avant d'assister aux premières loges à la renaissance d'un collectif tricolore, cette équipe de France incroyable qu'on a depuis quelques années, devenue en 3 ans un candidat sérieux au titre mondial. Raison supplémentaire de tout faire pour revenir dès le coup d'envoi de cette Coupe du Monde de rugby, qui est diffusée, vous savez, en partie sur TF1, en partie sur M6, en partie sur France Télévisions. Il voulait être de retour en septembre debout, c'était faisable mais le délai était très tendu. Rembobine Dimitri Cangardel, médecin interne en médecine du centre de rééducation de Châtillon au début de l'été. Je n'ai jamais eu aucun doute qu'il y arriverait. Il a marché avec ses béquilles quelques heures après son opération, raconte ce médecin. La suite lui donne raison. Mathieu Larteau mène sa rééducation jusqu'à la mi-août. Il s'est donné à 1000%, dit le docteur, impressionné par la vitesse à laquelle son patient s'est familiarisé avec sa prothèse. Mathieu Larteau pratique quotidiennement le renforcement musculaire jusqu'à l'épuisement. Il a tout fait pour revenir aux commentaires des matchs, comme ce soir. Le 10 septembre, il apparaît debout aux côtés de Dimitri Yachvili pour commenter Afrique du Sud-Écosse, épaulé dans ses déplacements. Le commentateur retrouvera ce jeudi, c'était le match que vous avez suivi pour certains, sur France 2, l'équipe de France opposée à Namibie, dans sa ligne de mire les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. D'ici là, il entend mettre sa notoriété au service de la cause des personnes handicapées, notamment en faveur de l'accessibilité des prothèses et des transports aussi. Un nouveau combat qu'il mènera sans doute avec la même détermination. Et c'est pour cette raison que j'aimerais que Mathieu revienne sur cette chaîne, peut-être pour une rencontre Étienne, pour qu'il nous parle de sport, pour qu'il nous parle de rugby, pour qu'il nous parle du mondial, qu'il nous parle de sa passion, qu'il nous parle de la lutte contre la maladie, qu'on le félicite, et puis qu'il nous parle aussi de son regard aujourd'hui sur le handicap en France, parce qu'il le vit au quotidien, et il dit « ça va pas, accessibilité, etc. » Voilà. Donc j'aimerais bien que Mathieu revienne à la maison, il le sait, on va se caler ça dans pas longtemps. Donc 96-0, victoire de la France contre la Namibie, est-ce que c'est un score historique? En tout cas c'est un truc de fou. Si Antoine Dupont ne revient pas, par contre, ce sera très embêtant. Alors, je vous lis un petit peu sur l'ami Mathieu. C'est chaud quand même. Ouais. Bon, prochain match contre l'Italie. Dernier match de poule. Aucun suspense. Hein, et même contre l'Italie, non, la France gagne. Et puis après, il y aura le quart de finale. Voilà, on verra. On va suivre. À suivre. Petit horoscope pour terminer. Allez, on va se prendre ça en direct. Parce que j'ai oublié de télécharger comme d'habitude. On va sur le dernier. Oh ben, mieux que ça. On va sur le. Allez, vous voulez que je vous lise l'horoscope de demain? Oui, il y a toujours un match à disputer. Ça va aller. Contre l'Italie, c'est ce que je disais. Ouais, arrêtez avec l'Italie, on va pas passer contre l'Italie. Ah, l'Italie, c'est, parfois, il peut être surprenant. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je prends le Parisien de demain, parce qu'il est déjà sorti, regardez, c'est le Parisien de demain, vendredi, donc la une sur le pape François à Marseille. Tiens, on peut feuilleter le Parisien, d'ailleurs, regardez. Donc, deux pages sur le pape, une page sur Emmanuel Macron, qui va assister à la messe. Le débat sur la revente à perte du carburant, gros débat ça, un truc qui marche pas trop. La visite du roi Charles III qui continue, les primes d'assurance qui vont augmenter, un nouveau papier sur les passoires énergétiques bientôt interdites à la vente, c'est un dossier qu'on suit ici. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oula, Justine avoue avoir tué son mari, c'est un fait div bien sauvage. Le séducteur escroc condamné à 2 ans de prison, là vous prenez tous les faits div, d'habitude je vous lis pas ça moi. Oula, l'affaire Palmade, c'est affreux, c'est affreux, c'est affreux, c'est affreux. Ça c'est sinistre. Le Bimbi, connaissez-vous? C'est quoi ce... Connaissez-vous le Bimbi? Derrière cet acronyme anglais se cache pour les propriétaires la possibilité de découper et de vendre une partie de leur parcelle, donc leur jardin quoi, afin d'y faire construire une maison. Ah ouais. Le Bimbi, bah je connaissais pas. Maintenant je connais. Les pubs, tout ça vous voyez pas d'habitude. Hein. Le football. Bah, pas de papier sur le rugby, hein, parce que ça... terminé trop tard. Peut-être qu'ils vont l'actualiser. Hop. C'est qui? Non, je connais pas. C'est une série? Simon Coleman? C'est une série? Il boutonne pas beaucoup sa chemise, hein, le monsieur-là. Voilà. Et hop, nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. Attends, je regarde les pages locales. Du Parisien, parce que le Parisien est un journal national et local. C'est un journal qui national qui traite l'actualité nationale et qui est un journal aussi régional quelque part dans sa version parisienne avec des pages locales. Bon, l'horoscope il est là. Hop, 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 hop. Petit concours. Big Steak, merci pour le 7e mois d'abonnement. Et on va faire un petit concours. On va faire un petit concours. Une petite question sur l'actualité. Le premier à me donner la bonne réponse avec son signe astrologique sur la même ligne, je lui lis son signe. Qu'est-ce que je vais vous demander? Qu'est-ce que je vais vous demander? Ok. C'est pas une question d'actu. C'est le nom du jeu auquel on joue dimanche soir prochain dans Ça me plaît. Le nom du jeu, votre signe astrologique, c'est parti. Alors. Oh, c'est gagné. Mademoiselle Dumaine. Poisson, pas de faute d'orthographe. Mario Kart. Néronron était juste derrière avec Scorpion. Fanny était juste derrière avec Sagittaire. Mais c'est les poissons. Et je suis tellement content pour les poissons. Les poissons qui ne gagnent jamais d'habitude. Et je crois que la dernière fois, c'était déjà les poissons. Je dis les poissons. Les poissons, bravo. Enfin, les poissons. Il était temps, hein. Des années que j'attends que vous gagniez ce concours. Poisson, cœur, c'est parti. D'ailleurs, comme je suis sympa, regardez. Avec des bons yeux, vous pouvez lire Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau. Poisson, cœur, vous pourriez rencontrer l'âme sœur. Célibataire. Toi qui me regardes ce soir, je sais qu'au fond de toi, dans ton cœur, il y a cette petite étincelle. Tu ne veux pas y croire et pourtant tu l'espères peut-être un jour rencontrer l'être qui t'est destiné, l'être qui va te permettre de t'élever spirituellement, affectivement, hein, de diminuer ta consommation d'alcool et de psychotropes aussi, voilà, et d'embrasser d'amour, d'un amour infini. l'humanité tout entière. Tu attends ce moment, et bien c'est là. C'est pour demain. C'est pour dans une heure. C'est demain. Poisson, cœur, vous pourriez rencontrer l'âme sœur. C'est écrit. C'est scientifique, c'est de l'horoscope. Hein. Mettez tous les atouts de votre côté si vous voulez plaire. Ah bah oui, faut faire un effort. Donc, on se douche. Alors, les poissons, streamer pas streamer, viewer pas... on se douche. Ok, donc demain, vous prenez une douche maintenant, là maintenant, à la fin du stream, en vous levant demain, voilà. Et puis, si à un moment, vous sortez, des courses ou petite soirée, vous redouchez, quoi. Merde, mon mec est poisson. Ah non, passe ta requête. Ah oui, effectivement, c'est pas précisé que c'est pour les célibataires. Passe ta requête écrit « Merde, mon mec est poisson ». Et oui, ça n'est pas précisé que ça ne concerne que les célibataires. Ah merde. Elle n'est pas poisson, je m'en fous. Hein. Ouais. Donc, cœur, c'est cool. Réussite, utilisez votre tact et votre diplomatie pour arriver à vos fins. Et forme, faites plus de sport. Alors, faites plus de sport, mais si vous faites du sport demain, vous vous douchez, quoi. Voilà. Ok ? Voilà. Cool. Bon, je suis hyper sympa. Vous savez quoi ? Allez. Les béliers, dépêchez-vous. Bélier, taureau, gémeaux, cancer. Hop, lisez tout. C'est scientifique, c'est vrai. Taureau, c'est moi. Réussite. Vous aurez à faire face dans les affaires à un dossier particulièrement confus ou hermétique. C'est exactement ce que je suis en train de vivre. Ce truc est vrai. Voilà. Gémeaux, cancer, tout le monde a lu. Je descends. Lion, vierge, balance, scorpion. Lisez. Ouais, je suis trop gentil aujourd'hui. Putain, vierge. L'amour vous ouvre des horizons insoupçonnés. Vous vous sentez capable de déplacer des montagnes. Oh, 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 oh. C'est beau. Hop, je descends. Sagittaire, Capricorne. Hey, Sagittaire, cœur. Célibataire. Il est temps de sortir, de provoquer de nouvelles rencontres. La chance est avec vous. Putain, mais en fait, mais tout le monde a le... C'est le printemps, quoi. Non. Cœur, Capricorne, vous avez un charme irrésistible. Il est temps que vous en preniez conscience. C'est long. Bon, puis, voilà. Bon, les poissons, demain, c'est l'amour. Alors le problème, c'est que c'est peut-être demain l'amour aussi, même si vous êtes en couple actuellement. Ça, vous me direz, hein. Les amis, merci. Combien on s'est fait là? Un petit 2h40 de stream. Normalement, c'est le matin, les journaux, mais 2 jours sans pouvoir streamer, pour de bonnes raisons, pour des raisons professionnelles, ça ne me va pas. Je perds le lien, je perds le contact. Et donc, j'ai mis 2 jours d'articles de côté pour vous les lire ce soir. C'est de l'amour. Je ne suis pas poisson, mais c'est de l'amour. Je vous souhaite une belle journée. Je vous rappelle qu'on se retrouve demain soir 20h avec cette bande de belles personnes, voilà, pour l'hebdo Étienne. Voilà. On va se régaler sur l'actu de la semaine de façon chill, on va pas se prendre la tête, hein. Et puis dimanche soir 20h, le beau gosse, le mec le plus sympa du monde, le meilleur animateur de Twitch, j'ai nommé Jiraya, qui va me faire découvrir sa passion pour Mario Kart. On va se régaler, on va tout casser, elle va être folle, cette émission. J'ai dit bonne journée, ouais, c'est parce que d'habitude c'est le matin, pardon. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci Grassegrain qui vient de nous rejoindre pour le raid. Au moment où nous on s'arrête, c'est pas grave, nous on va récupérer tes viewers, on va faire un raid avec. Je prends mon petit Mac. Ayez une pensée émue pour moi parce que le boulot est pas terminé. Maintenant je vais bosser pour l'hebdo Étienne, sur l'hebdo Étienne, pour préciser les sujets. Pour mes invités de demain, les sujets, tout ça, faut que j'écrive tout ça, faut que j'envoie ça à mes partenaires de l'INA aussi. Donc pensez à moi. Je vous mets 2 minutes de musique. On remet le titre de tout à l'heure qui était sympa. 2 minutes de musique et dans 2 minutes on raid tous ensemble. Faites-moi des propositions dans le chat tout de suite. C'était quoi la musique? Ah merde, j'ai plus de ça. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est ça. 2 minutes de musique. À tout de suite pour le raid.
you can never go back. Struggle to survive. On va être dans 30 secondes. On va être dans 15 secondes. Ce titre. Les amis, hop, le raid est choisi, vous me l'avez proposé, et c'est un raid que je voulais faire depuis dimanche dernier, puisque dimanche dernier, Kenny était avec nous pour me montrer toutes les subtilités. Je me suis régalé de Rocket League. Il a commencé un subathon cette semaine, on le rejoint. Souhaitez-lui un bon subathon, dites bon subathon de la part de Samuel, par exemple, si vous le souhaitez. J'ai découvert un garçon formidable, la gentillesse incarnée. Le mec, c'est le... Enfin bref, un bel être humain. Voilà. Allez, on le raid et je vous dis à demain matin, peut-être stream le matin, je sais pas, demain soir c'est sûr. Et dites coucou à Kenny, souhaitez-lui un bon subathon et il le mérite. Je crois que c'est son premier subathon ever. C'est parti, ciao ciao, bonne soirée, merci, soyez heureux, rendez les autres heureux autour de vous. Poisson, n'oubliez pas, demain c'est l'amour.